Radio Courtoisie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 30 novembre 2005 de 18h à 21h, en différé jeudi 1er décembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir.
Résistons.
Résistons pour le menton. Très très bonne, elle est bonne celle-là, je vais essayer de la replacer prochainement. Ça va, Alec Goffman?
De mieux en mieux, merci Serge.
Bon, c'est bien. I am happy. Ce soir, on fait une soirée russe pour la première partie de l'émission, parce que nous recevons Vladimir Fedorovski.
Здравствуйте, добрый день.
Спасибо, добрый день. Хорошо, как поживаете, хорошо?
Très bien, merci encore.
Bonsoir. On va pas faire l'émission en russe peut-être complètement, parce que je tiendrai pas longtemps. Goffman tiendra plus longtemps que moi.
Deux minutes, mais j'ai pas bu. Je parle beaucoup mieux quand j'ai bu.
La veille de Noël, il faut parler russe et boire la vodka.
Ah oui, il faut commencer par boire la vodka, après on parle très bien russe. Alors, Vladimir Fedorovski a écrit un livre qui s'appelle Paris-Saint-Pétersbourg, qui est un très bon livre, on va en parler, c'est une bonne idée. Et puis, il présente en tant que directeur de collection, la collection Un Nouveau Regard, aux éditions du Rocher, un livre de Tania Velmans qui s'appelle La fabuleuse histoire de l'icône. et qui est une très très jolie idée, vous verrez. Et puis j'ai trouvé en venant dans les bureaux de Radio Courtoisie un bouquin dont je parlerai brièvement, qui m'a l'air tout à fait passionnant et qui est intitulé « Une dame de l'ombre à la cour de Russie ». Anna Vilobova, c'est un livre de Louis Bérou qui raconte...
Magnifique histoire, c'est vraiment l'éminence grise de la dernière tsarine.
C'est ça, c'est l'éminence grise de la tsarine et c'est un témoignage très humain, très vécu de l'intérieur. C'est pas de la grande diplomatie, c'est pas de la grande histoire politique, c'est des petits détails, des petites anecdotes, et en même temps avec un vrai regard sur cette période passionnante. Et la deuxième partie, eh bien, sera présidée par mon excellent camarade Bernard Anthony, que vous connaissez tous. Bonsoir Bernard, qui est parmi nous.
Bonsoir.
Déjà. Elle sera consacrée à une réplique à Onfray, Daniel Onfray, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La théologie.
Oui, c'est cela.
La théologie.
La théologie.
Voilà. Voilà. Et il fera ça avec...
Michel Onfray.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Gérard.
Non, c'est pas grave. Mais ça n'est pas les grave. Prénoms et moi, une fois pour toutes, on est fâchés.
Alors, ça, c'est une vedette, Michel Onfray, pourtant, il me semble.
Oui. Je ne crois pas dans mon cheptel à moi.
Ah, voilà. Il n'est pas de votre paroisse.
Il n'est pas du tout de ma paroisse, non. Et Bernard sera entouré de Judith Cabot, que je salue, qui est déjà parmi nous, et que je suis très 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 content, honoré, ravi, enchanté de recevoir.
Merci.
À ce micro. Bonsoir Judith. Jan Smith, qui n'est pas là.
Elle va arriver, mais elle est prévue pour la seconde partie de l'émission.
Elle n'est pas présente.
Dans les départs tard, elle va se joindre à nous bientôt.
Et puis, Mademoiselle Montmirail, que j'ai appelée Cécile pour les circonstances, bien entendu.
Voilà.
Qui fera... son travail de journaliste, j'imagine.
Voilà, elle va faire son travail de journaliste, notamment avec Judith Cabot.
Vous avez déjà entendu la voix de Victoria. Ça va-t-il ?
Ça va, ça va.
Ça va mieux que l'autre fois ?
Je n'y vois pas grand-chose, mais à part ça, tout va bien.
Oui, mais pas de lunettes, pourquoi non ?
Mais parce que les vieilles ne marchent pas et je n'en ai pas encore de neuves.
Comment vous pouvez avoir des vieilles lunettes ?
Ben, les lunettes
une
d'avant l'opération.
Comme vous. Ah, c'est ça. Et puis, ben voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Pour l'instant, on va parler un peu de l'actualité. Alors, on en apprend tous les jours, parce que jusqu'à une date récente, je croyais que la France était endettée de 1000 milliards. Je me disais 1000 milliards, on est tranquille, on peut rembourser ça...
À la petite semaine.
À la petite semaine, bon. Et puis non, c'est plus 1000 milliards, c'est 1200 milliards jusqu'à hier. Et puis hier, on a appris que c'était 2000 milliards. Alors là, 2000 milliards, ça commence à faire un peu beaucoup, je trouve. Je me demande comment je vais y arriver.
Hein? Ben, le plus surprenant, Serge, c'est cette avalanche d'ordres et de contre-ordres. Qu'est-ce que votre inspecteur des impôts penserait de vous si vous n'étiez pas fichu d'une semaine sur l'autre de lui dire quelle est votre dette à un milliard près ?
Mais ça, c'est un peu le cas d'ailleurs. Le problème, c'est que ils avaient oublié les retraites. Les retraites des fonctionnaires.
Et la semaine prochaine, on nous dira qu'on a oublié une virgule quelque part.
Et les assimiler. Non mais attendez, 2000 milliards d'euros. Alors, je vais pas essayer de faire le calcul, parce que de toute façon, je me trompe à tous les coups, mais je crois pouvoir avancer sans me tromper que ça représente quelque chose comme... 67 ans de travail pour un cadre supérieur. 70 ans de travail pour un cadre supérieur.
Non, Serge, non.
Non. Attendez, je me suis mal expliqué.
Pour tous les cadres, alors.
Si tous les Français étaient cadres supérieurs, il faudrait qu'ils travaillent pendant 70 ans pour rembourser la dette. En gros,
voilà,
c'est ça.
Voilà, tous les Français.
Ouais, c'est ça.
Vous savez, Serge, ça n'est qu'à moitié drôle. Ça a fait l'objet, d'ailleurs, de l'émission de notre ami Reichmann hier. Il y avait beaucoup d'économistes, de gens qualifiés. Par ailleurs, j'ai le privilège d'avoir, en tant que correcteur, déjà lu un article à paraître dans le Libre Journal sur cette dette et ses conséquences. C'est pas simplement qu'il va falloir la rembourser. C'est qu'il est bien possible qu'on se retrouve dans la situation de l'Argentine il y a quelques années. C'est-à-dire que le crédit de la France soit en quelque sorte annulé. C'est-à-dire que on ne trouve plus de crédit. Il faut savoir qu'on emprunte pour rembourser les intérêts de la dette, qui les seuls intérêts représentent, l'impôt, la totalité de l'impôt sur le revenu. Il faut continuer à emprunter et il se peut qu'on ne puisse plus emprunter bientôt ou dans des conditions difficiles. C'est-à-dire que de même qu'un type qui boit à crédit au bistrot pendant 6 mois, on lui fait plus crédit. C'est ce qui nous menace. Alors, on a un très bon article économique. Beaucoup, je suis loin d'être économiste, c'est pour ça que je bredouille sur cette question. mais on a un très bon article à paraître sur la question. Nous sommes menacés d'une situation à l'Argentine. Alors, les gens qui continuent à rigoler de l'autre côté du poste, ils ont tort, parce que pour eux, individuellement, ça veut dire aussi que quand ils seront argentins des argentés, on leur dira, monsieur, vous pouvez retirer 10 euros cette semaine et pas plus, et que leur épargne est menacée.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, si ça se produit, ça se produira du jour au lendemain. Un matin, on se réveillera et les informations officielles nous diront à partir de depuis minuit, vous ne pouvez plus retirer plus de 10 euros sur votre compte en banque. C'est ce qui est arrivé aux Argentins. Bon matin, ils se sont levés et on leur a appris ça.
Oui, mais Monsieur Bouteflika va nous faire un prêt, je pense.
Oui.
L'Algérie a 50 milliards de dollars d'excédent.
Déjà, quand il aura payé...
Il ne faut pas ça... le laisser repartir, il est à l'hôpital, il n'y a qu'à garder Bouteflika, reprendre une vieille tradition barbaresque.
On n'a vraiment pas besoin de ça, hein. On en a assez de ce côté-là.
Eh oui, mais on le laissera repartir le temps qu'il nous aura payé ce qu'il nous doit.
quelle méthode absolument condamnable. D'autant que Villepin est en train de durcir le dossier de l'immigration, vous avez vu ça, c'est pas le moment de les garder. J'ai raconté 100 fois la vieille blague, bien entendu, du Belge qui arrive gare du Nord et qui demande au taxi, mais dites-moi, la guerre d'Algérie, vous l'avez bien perdue? Oui, oui, monsieur, bien sûr, mais pourquoi vous gardez les prisonniers? Voilà. Alors, Villepin, il a décidé qu'on recevrait plus les prisonniers, donc il a annoncé des mesures que les socialistes ont trouvées extrêmement dures. C'est-à-dire qu'un temps, pour devenir français, il faudra 2 ans au lieu d'un an. C'est incroyable. Et quand on sera marié avec une Française... Il faudra rester marié pendant 4 ans pour pouvoir.
Ouais, mais c'est long quand même.
Français. Ça. C'est une atteinte au droit du divorce.
J'ai une nouvelle conception du mariage. Moi, je crois que c'est très long.
Cela dit,
c'est une atteinte au droit de l'homme de ne pas pouvoir divorcer avant 4 ans.
Absolument, c'est une atteinte au droit de l'homme et au droit de la femme en plus, parce que je pense qu'elle doit être un peu pressée de s'en débarrasser une fois que le truc est fait. Enfin, en tout cas, j'ai vu ce matin qu'il y avait une petite annonce dans je ne sais quel journal disant cherche dame pour mariage blanc. S'adresser à, etc. Je dis pas le nom parce que je dis pas le nom, voilà, c'est tout. Donc, ça, les socialistes nous expliquent que c'est absolument criminel de vouloir prendre des mesures contre l'immigration. Et c'est un paradoxe formidable parce que...
C'est leur électorat, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent?
Mais non, parce qu'ils votent pas. Mais c'est un paradoxe formidable parce que, les socialistes devraient être contre l'immigration, puisqu'on nous dit que si on fait immigrer les gens, c'est pour payer les retraites des Français. Ça s'appelle de l'esclavage, ça. Hein, quand on fait venir les gens en France pour servir les Français, alors donc les socialistes sont pour une forme d'esclavage. Les immigrés font les boulots que les Français ne veulent pas faire, et en plus, avec leurs impôts et leurs cotisations, ils payent les retraites des Français. C'est absolument dégueulasse. Libérez nos camarades.
Puisqu'on parlait de la dette tout à l'heure, Serge, savez-vous, vous qui êtes informé qu'il y avait des informations privilégiées, quelle proportion de cette dette a été engloutie dans 20 ans de plans banlieues sous différentes dénominations, et dans les allocs, et dans ceci, et dans cela? Je crois que c'est un prix Nobel d'économie. Monsieur Alec a démontré que ça nous coûtait des milliards et des milliards. Bernard Anthony a la réponse. Combien de milliards sur les 2 000 milliards de dettes ont disparu dans les banlieues?
Oui, moi je crains de faire un peu comme Serge, me mêler les pinceaux dans les dollars, les euros et les francs, mais ceci est à peu près incalculable. Alors nous avions effectivement fait un calcul jadis, que commentait brillamment le professeur Mioz, c'était dans le rapport Mioz, le coût de l'immigration tel que le Front National le présenter sur la base des travaux de professeur Mioz, que je salue s'il nous entend, c'était 200 milliards par an. Donc là, nous parlions de francs. Voyez ce qu'a coûté l'immigration aujourd'hui. Les 2000 milliards d'euros sont au moins en grande partie le résultat de cette folie. Monsieur Villepin, pour résoudre la dette, a en effet annoncé des mesures qui sont quand même sans doute très, très, très positives. On va reconstruire des gymnases incendiés, reconstruire des écoles incendiées, reconstruire toutes les installations incendiées. Alors, ça ne coûte pas cher, donc ça n'est rien du tout.
En tout cas, je ne sais pas comment les socialistes se débrouillent, parce qu'ils sont toujours à contre-temps. Je disais, effectivement, ils sont partis en esclavagisation des Nord-Africains et des Africains pour payer les retraites et puis le chômage, et puis tout ça des Français de souche, quoi, quand même, il faut bien reconnaître que c'est ça. Et puis, ils sont aussi contre contre la colonisation, contre la reconnaissance du fait que la colonisation a été un apport important pour les pays colonisés. C'est-à-dire qu'il renie toute la politique coloniale
de leurs grands ancêtres. Il ne faut pas oublier que la colonisation a été essentiellement une affaire de gauche que la droite voulait tempérer. Affaire de gauche, Jules Ferry, qui était l'exploiteur du Tonkin, parce qu'il y a eu effectivement Ferry-Tonkin.
Qui en fumait les ennemis.
Il y a eu effectivement des mauvais côtés dans la colonisation. Ces mauvais côtés, c'était ce que voulaient les hommes de gauche qui invoquaient une idéologie égalitaire, bien sûr, c'était M. Blum qui disait qu'il fallait se pencher sur le sort des races inférieures. Jules Ferry aussi apportait aux peuples inférieurs tout ce qu'on voulait. Mais il badigeonnait de ce discours philanthropique une réalité qui était celle, il faut bien le reconnaître, d'une exploitation par leurs petits copains des loges maçonniques. La colonisation dans son aspect qui est très positive, c'était le fait de l'armée française protectrice, qui a créé partout ses dispensaires, ses bureaux indigènes. Ça a été le fait de l'Église catholique. Voilà, si on voulait faire le véritable bilan de la colonisation, on peut dire qu'il a été positif par l'action de l'armée française, qui a partout donc pacifié, éduqué, soigné par l'action des missionnaires. Mais cette colonisation, elle était effectivement en grande partie pourrie par l'affairisme de gauche.
Ferry, qu'on entend, disait qu'il faisait valser l'anse du panier.
Très belle
Tonkin, Ferry-Famine.
Ferry-Tonkin, Ferry-Famine.
Alors, et à propos justement du rôle de l'Église, j'ai vu que Monseigneur, c'est pas Monseigneur, donc enfin Béranger, l'évêque de Saint-Denis, là, il a envoyé, comme toujours, un message pour le Ramadan. On attend toujours, d'ailleurs, qu'un imam envoie un message pour le carême.
Oh, ça va venir, mais ce ne sera pas le message espéré.
Mais Béranger a envoyé un message à Boubaker, et d'ailleurs aux musulmans en général, du 93, du 9-3, pour les féliciter à l'occasion de la fin du Ramadan. Dans lequel il dit que naturellement on a le même Dieu.
Oui, oui, alors ça a été, si vous permettez, Serge, c'est partout. Je l'ai, j'ai commenté cette affaire-là dans le livre qui paraît dans 48 heures, L'Islam sans complaisance, aux éditions Godefroy de Bouillon. Dans ce livre, je fais apparaître la monstruosité de cette affirmation. On la retrouve partout. D'ailleurs, comme quoi, ce n'est pas l'originalité qui frappe cette opération. Partout, nous avons le même Père Abraham, ce qui est totalement faux. Nous avons la même Vierge Marie, ce qui est totalement faux. Nous avons le même Christ, ce qui est totalement faux. Mais on entend dire, on entend dire par des chrétiens, on ne savait pas qu'on avait le même prophète que les musulmans. C'est dire aujourd'hui la déchristianisation et surtout le même Dieu. Or, il est bien évident que nous n'avons pas ni le même Dieu, ni le même Père Abraham, ni le même Christ, ni la même Vierge Marie, mais nous en débattrons ultérieurement, probablement.
Je voudrais lancer un appel aux auditeurs qui n'ont pas le sens de l'humour. Vous pouvez tourner le bouton, il y a 53 radio FM.
Qu'est-ce qu'on a encore dit,
Alors voilà. Vous êtes contre la loi Guesso sur la Deuxième Guerre mondiale, vous êtes pour la loi Guesso sur la colonisation, c'est grotesque. Mon cher auditeur, je regrette de devoir vous dire que s'il y a quelqu'un de grotesque dans cette histoire, c'est sans doute pas moi. Il y a un truc qui s'appelle l'humour, c'est cette espèce de crispation nerveuse qui fait relever les coins de la bouche et le coin des yeux. Et ça ressemble à un sourire. Voilà. Vous devriez essayer, c'est parfois bien reposant. 2000 millions, non, c'est pas 2000 millions, c'est 2000
milliards
d'euros. Voilà, c'est ça. Un ancien de la banque, monsieur, un peu sérieux. Bien, alors, il y a d'autres informations qui restent intéressantes. Il y a des coïncidences, par exemple. J'ai vu que exactement le jour où on annonçait la nomination d'un aumônier aux armées musulmans, d'ailleurs je ne sais pas s'il va être sunnite ou chiite, il va falloir qu'il s'arrange pour ça, on annonçait également l'arrestation de 7 islamistes à Bourges. Alors ce que j'aime bien, c'est 7 islamistes présumés, parce que maintenant on est islamistes présumés. Hein, bon. En fonction de la loi qui veut que tout accusé est présumé innocent, on nous explique qu'il est présumé coupable. Déjà, ça prouve que les journalistes sont vraiment des gens brillants. Et alors, 7 islamistes présumés ont été arrêtés, et parmi eux, il y avait quand même 2 imams de prison.
En prison.
Voilà.
Donc, ce qui est absolument incroyable, parce que là aussi, si dans le chiisme on peut penser qu'il y a quelque chose qui ressemble à du clergé, effectivement, avec la hiérarchie des ayatollahs et puis ensuite donc des imams, dans le sunnisme, les imams, ça peut se traduire par conducteur de prière. Ça n'est rien d'autre que quelqu'un qui appelle à la prière et qui commente selon quelle hiérarchie, quelle formation, quelle organisation, c'est tout à fait mystérieux. Mais il y aurait beaucoup à dire sur les erreurs de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy multiplie les erreurs, il rassure le bourgeois, il veut rassurer le bon peuple, mais en définitive, que fait-il? Il est en train de mettre en place donc le patchwork, la balkanisation, la libanisation de la société française. La dernière en date, c'est maintenant le conseil représentatif des communautés noires. Mais enfin, on rêve. Jusqu'à présent, on nous avait dit qu'il y avait des Français, quelle que soit leur couleur, des noirs, des jaunes, des blancs. Non, voilà que maintenant, on commence à créer des communautés représentées. Ouais. Et Sarkozy réellement fait une politique qui, hélas, coûtera un jour beaucoup de sang à notre peuple.
À ce propos, il y a un auditeur qui nous fait remarquer une chose qui est fort intéressante. Il dit, le gouvernement a émis une recommandation aux chaînes télé d'être représentatif des minorités visibles. Mais ça supposerait qu'il y aurait donc une majorité invisible qui serait dans les télés.
Oui, mais Serge, là je vous invite à beaucoup de précautions sur les minorités invisibles. Il faut en parler invisiblement, inaudiblement. On pourrait faire une minute de silence.
il parle de représenter les minorités visibles. Moi je suis d'accord, mais s'il y a des minorités visibles, il doit bien y avoir une majorité invisible. Alors qu'est-ce que c'est à la télé, à la radio, à la télévision? Il faudrait qu'ils nous disent ça, les gens des médias, ou enfin du gouvernement, puisque c'est eux qui... En plus, c'est eux qui demande que cette majorité invisible soit réduite par des minorités visibles. Je ne comprends pas très bien leur truc.
J'interjette une autre information, Serge, en vous demandant d'abord si elle vous a donné la grosse tête, puisque, rappelez-vous, il y a 3 semaines, nous avons pas mal fait rigoler l'auditoire avec vos imitations de rappeurs et leurs textes authentiques. Et voilà que je l'ai appris dans mon bistrot avant de retrouver l'information dans le Canard Enchaîné qui s'en indigne. 200 députés ont saisi le ministère de la Justice à propos de ces chansons racistes, anti-françaises, anti-blancs. Et naturellement, le Canard est indigné et fait remarquer que il y a prescription, que la plupart de ces textes datent de 10 ans. Voilà. Alors, est-ce que vous sentez responsable de cette réaction de 200 députés?
J'espère qu'ils m'ont écouté, peut-être pas tous les 200, mais peut-être 150, mais ce qui me frappe là-dedans, c'est que quand la télévision a donné la parole à monsieur Gros Didier, qui est à l'initiative de cette idée, il est venu et on l'a confronté avec un type, d'ailleurs c'était assez comique, on l'a confronté avec un type qui était censé représenter qui était censé être un exégète du rap, des banlieues. Et alors on a vu arriver un petit bonhomme, malingre, avec 3 poils sur le caillou et 2 poils sous le nez, qui ressemblait à un sous-aide comptable commis aux écritures dans une administration de distribution des ronds de cuir dans les ministères, quelque chose comme ça, et qui expliquait que le rap c'était quelque chose de formidable et que si on était contre le rap, on était une abominable crapule fasciste parce qu'on n'aimait pas l'art populaire. Et alors à ce moment-là, Gros Didier se décomposer et dire mais c'est pas du tout pour ça, vous comprenez, moi j'organise des concours de hip-hop dans ma ville, qui est, je sais pas d'où il est, Gros Didier, il est maire de
quelque chose. Quelque part dans les Vosges.
Alors il a donc s'est défendu en expliquant que, effectivement, on peut imaginer que dans les Vosges, ils ont besoin de danser le hip-hop. Et puis il a dit, et d'ailleurs, ça n'est pas contre les jeunes que j'ai pris cette initiative, c'est contre l'extrême droite. Ça pouvait paraître un petit peu tordu comme raisonnement, mais j'ai fini par comprendre que M. Gros Didier pensait que le fait de diffuser du rap raciste, agressif et violent, appelant au viol des femmes, à l'assassinat des policiers, choses qui sont très populaires, quoi, tout simplement, pouvait apporter de l'eau au moulin de l'extrême droite. Et ce qui était urgent, c'était pas de faire taire les voyous ethniques, c'était d'empêcher l'extrême droite de faire des voix avec ça. Et j'ai trouvé que M. Grosdidier avait fait beaucoup de progrès depuis l'époque où il fréquentait nos milieux, mon cher Bernard.
Il y a en effet toute une famille comme ça. Je nous retrouvons avec curiosité qui a, je crois, une tradition de la trahison. Il faut bien dire les choses et du mépris.
Du reniement, en tout cas,
pour ceux à quoi ils ont appartenu. Voilà. Alors on ne s'étendra pas sur eux parce que.
Laissons-les voir. Non, ce qui est merveilleux en plus, c'est que le type qui l'interviewait, je ne sais plus qui c'était, lui dit ah, mais je ne mets pas du tout en cause le caractère démocratique de votre engagement politique. Ça, certainement.
Passe-moi la rhubarbe.
Si démocrate, c'est pas depuis longtemps.
Alors, j'en conclus, Serge, que vous pouvez à bon droit avoir la grosse tête, parce que ce que vous nous dites là, ça signifie que. Nous n'avons pas amusé et agité seulement notre auditoire avec cette émission où nous avons décliné ces paroles de rap scandaleuses, mais suffisamment de gens et d'électeurs pour qu'ils mettent en mouvement 200 députés.
Je rappelle tout de même que c'est la Drif qui, en premier, sur ce combat face au rap, face au racisme le plus intolérable qui soit, a mis en mouvement la justice. Nous attendons d'ailleurs dans cette affaire-là, nous sommes partie civile, nous avons déposé plainte, je dois dire que les députés gesticulent, mais pour ce qui est du travail devant les tribunaux, c'est nous qui le menons. Et alors je voudrais vous révéler quelque chose ici, c'est que dernièrement un avocat de Toulouse, assez astucieux, a défendu comme cela des rappeurs qui s'étaient livrés à des actes délictueux, à savoir le viol d'une jeune toulousaine. Un viol dans des conditions, vous me direz, c'est toujours des conditions atroces un viol, mais assorti de propos je m'excuse pour les auditeurs radio courtoisie, toi sale pute de française, le reste j'ose pas le répéter ici. C'était du racisme intolérable, c'était vraiment les paroles telles qu'on les retrouve dans Nique ta mère, telles qu'on les retrouve dans Sniper, telles qu'on les retrouve dans France SS. Et leur avocat a dit ceci, mais ça n'est pas de leur faute, ils sont conditionnés par le rap, c'est parce que ils ne reçoivent que ceux-là qu'ils se sont comportés ainsi. Il a donc plaidé, en quelque sorte, l'indulgence pour les violeurs en disant que c'était réellement par le conditionnement du rap qu'il procédait à de tels actes.
C'est exactement le contraire de ce que nous explique la gauche et la presse, la grosse presse bien pensante, à savoir que ces paroles de racisme n'ont aucune influence sur les événements dans les banlieues.
Il y a eu une déclaration d'ailleurs superbe d'un type qui a dit, mais vous prenez vraiment les jeunes pour des imbéciles si vous croyez qu'ils vont mettre à exécution immédiatement les mots d'ordre que leur donnent les rappeurs.
Eh bien oui.
Eh bien oui, la réponse est oui, évidemment.
Oui, bien entendu.
Mais, à propos de racisme, je voudrais quand même, parce que moi je suis vraiment un militant antiraciste depuis très très longtemps en tant que membre de la Grif, je voudrais dénoncer un racisme qui est intolérable, c'est le racisme de Canal+, qui diffuse, je crois pratiquement tous les soirs, un programme qui s'appelle, qui montre une jeune fille totalement idiote, et ça s'appelle la minute de la négresse.
Mais non, c'est la minute de la blonde.
Ah, de la blonde, oui. Ouais. Ou alors c'est pas du racisme.
Pas du tout.
Ah bon, on s'en fout alors.
Non, si c'est...
Ça vise la majorité invisible.
Vous êtes au bureau de la Drif, mais il faut comprendre des choses. Si on dit la minute de la négresse, c'est raciste. Mais si on dit la minute de la blonde, il faut insister sur cela. Ça n'est pas raciste, c'est même antiraciste.
Sur internet, agrif.fr.
Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah oui, à propos justement du fric dont vous parliez tout à l'heure, Patrick, je vous signale que... Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale, du Logement et autres territoires découverts à marée basse, c'est Monsieur Borloo, c'est ça?
Oui.
Ouais. Il a dit que il était très content parce que la France avait remporté un record depuis 25 ans avec la construction en 2005 de 77 000 logements sociaux financés. 77 000 logements sociaux ont été financés en 2005, par vous et moi, par l'État, quand c'est bien. Alors, on est obligé de prévenir les trois clochards qui couchent devant chez moi toutes les nuits. S'ils savaient qu'il y avait des logements sociaux, ils ne s'emmerderaient pas à dormir sur le trottoir.
Oui, et cette fonctionnaire qui gagne 1200 euros par mois et qui habite dans sa voiture, qui ne peut pas avoir une chambre de bonne, comme la France Inter nous l'a raconté ce matin.
Voilà, bon, autre chose sur les actualités, non, je ne vois pas. Si, il y a quand même une chose que j'aime bien, c'est l'histoire de Maître Achoui, Karim Achoui, qui a été inculpé parce qu'il avait défendu son, son client Nino Ferrara. Et il est venu expliquer, il dit, vous savez, j'ai trouvé ça très drôle, les avocats, de temps en temps, on est amené à défendre des gens qui sont des délinquants. Ça peut arriver. Non, c'est le lot de...
C'est curieux,
de...
cela.
Hein, ouais. Ouais. Mais pour l'instant, ils l'ont quand même inculpé d'un tas de choses. Ça va devenir difficile, la profession d'avocat. Et on peut demander à Maître Delcroix, il sait, d'ailleurs, il est au courant. Voilà, c'est à peu près tout. Si, il y a quand même une grande nouvelle, c'est que les militants UDF vont avoir à choisir en janvier entre M. Bérou et M. Robien.
Serge, est-ce que vous êtes sur le point d'oublier?
Je trouve indifférent à cette nouvelle. Quoi. On dirait que ça n'a aucune importance.
Mais si, moi j'ai à citer M. Bérou, mais dans un cadre précis que vous avez l'air d'oublier, nous étions convenus, je suis obligé de vous le rappeler devant 600 000 auditeurs, de dire un mot des déclarations à l'étranger de deux réfugiés.
Ah mais on va y venir.
Ah. Je m'inquiétais. Eh bien, à cette occasion, M. Bérou a dit que le chiffre du chômage, c'était de la communication. On y reviendra donc tout à l'heure, et on expliquera ce que ça veut dire à ceux qui ne veulent pas comprendre.
Oui, je voulais parler de Finkielkraut, parce que il y a eu un moment quand même extraordinaire. Finkielkraut a fait une déclaration dans laquelle il a émis une opinion sur les motifs des violences dans les banlieues, des violences ethniques dans les banlieues. Alors tout le monde, il a fait ça, il a fait ses déclarations à un journal israélien qui s'appelle Haaretz. Immédiatement, il a été accusé de racisme par le MRAP. Et d'ailleurs, sur le MRAP, il faudra quand même un jour qu'on pose une question. Moi, enfin, ça m'intéresse parce que ils font des procès, ils gagnent de l'argent quand ils font ces procès. Mais qu'est-ce qu'ils font de ce fric?
Et les subventions?
Qu'est-ce qu'ils en font au juste de ce fric? Et les subventions qu'ils touchent, ça sert à quoi? Parce que moi, j'ai jamais vu de campagne formidable du MRAP pour venir en aide aux pauvres immigrés. J'ai jamais entendu dire qu'ils participaient à des collectes pour les loger, pour les nourrir, pour les abriter, pour les vêtir, pour les alphabétiser. Tout. Non, j'ai contente de vous dites quelque chose qu'ils considèrent comme raciste. Ils vous font un procès. Les juges sont à la botte. Ils exécutent. Qui vous assassine, et vous vous retrouvez à payer 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 130 000 euros, 1 300 000 euros, et le MRAP se met le fric dans la poche, et qu'est-ce qu'ils en font au juste? Est-ce qu'il y a eu une fois un audit sur l'usage que le MRAP faisait de cet argent?
Ça viendra, rassurez-vous. Ouais, dans cette affaire, c'est très bien que vous mentionniez le MRAP, parce que...
Je n'en dis rien ce soir, Serge, parce que c'est quelque chose qui pose d'une manière générale le problème de toutes ces associations. Je ne dis pas qu'elles fassent des choses illicites ou illégales, je m'en garde de bien, mais cela permet de financer des permanents qui conscientisent, et on sait que ces associations touchent des subventions considérables de par les collectivités publiques, de par les départements, les régions, les municipalités. Mais effectivement, la question que vous posez là est très intéressante. C'est celle que j'ai posée à propos de AIDS que nous avons fait condamner à Toulouse. Parce que là, je suis allé très loin et j'ai demandé vraiment des éclaircissements. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient bien réellement contre le sida? Ils organisaient des campagnes abjectes contre l'Église catholique, mais contre le sida, strictement rien. Ça s'appelle comment, ça? Je laisse aux auditeurs de Radio Courtoisie le soin de conclure.
Alors, en ce qui concerne Finkielkraut...
Et le MRAP, parce que c'est bien le MRAP qui est en cause.
Et le MRAP, en ce qui concerne donc les déclarations de Finkielkraut, il est revenu, étant poursuivi par le MRAP, il est revenu, il a dit une chose qui est extraordinaire, parce qu'elle nous a rappelé, à nous, Patrick et moi, qui sommes des vieux militants blanchis sous le Harnois, nous a rappelé une période sombre de l'histoire. Il a fait ce qu'on appelle une autocritique, en disant, mais quand j'ai lu dans Le Monde les textes qu'on avait publiés, les phrases qu'on avait publiées de ma déclaration, je me suis dit que je détestais ce personnage, ce monstre, que je n'étais pas et que je refuserais de me serrer la main. Ouais. Alors, on est exactement en face d'une réaction
schizophrène, qui nous en rappelle d'autres.
C'est les procès de Moscou, c'est où le type arrive devant le tribunal et dit « Oui, je reconnais que par mon attitude, j'ai porté atteinte aux intérêts du parti et de la nation et de l'Union soviétique et du territoire sacré de l'Union soviétique. » C'est exactement ça. Et dans le même temps,
si vous me permettez,
je vous en prie.
Je voudrais intervenir sur ça parce que
Vladimir Fedorovski,
quand même, Finkielkraut, il y avait quand même toute une avalanche de politiquement correct autour de ces derniers jours avec la crise, à propos de la crise, tout ça. Mais à titre personnel, si vous me permettez, je veux saluer quand même Finkielkraut, qui était un des rares qui a pondéré quand même ce politiquement
correct. Non, mais c'est ça.
Cela dit, vous avez raison.
Il le fait, mais il y a une chose qui est intéressante. Effectivement, il a un certain courage qui est de dire ces choses-là. Bon, ce qui venant de lui, et je dirais encore plus courageux que si ça vient de nous, parce que nous, on fait tout le temps, donc c'est pas nouveau, mais non, le triple saut périlleux, on a l'habitude. Lui, c'est son premier essai, et pour le coup, il faut un certain courage pour se lancer. Cela dit, une fois qu'il lui tombe sur le dos l'avalanche d'un jure, de sommation de revenir, de s'excuser et tout, il baisse pavillon, il dit, je ne me reconnais pas dans ce personnage-là. Or, cette déclaration, il était allé la faire là, en Israël. Et il y a une autre personne.
L'interview a eu lieu à Paris. Aretz paraît en hébreu.
Voilà.
Et Madame Dankos a fait des déclarations tout à fait comparables. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Elle a dit, pratiquement dans les mêmes termes que Finkielkraut, la chose la plus importante qu'elle a dit, c'est il est impossible de s'exprimer en France. Voilà. On n'a plus de liberté de parole. Et elle l'a fait à la télé russe. De même, elle pensait qu'elle était la seule à parler russe.
Ils avaient encore des illusions. Ils croyaient que Big Brother n'avait pas de traducteur.
Oui, c'est ça. Hein? Mais c'est quand même formidable de penser que des gens de ce niveau...
De l'establishment, c'est ça qui est frappant.
C'est des gens de l'establishment, qui devraient pouvoir s'exprimer tranquillement. On sait bien que Finkielkraut, c'est pas Joseph Goebbels, quand même. Et on sait bien que Mme Carrère-Dankos, c'est pas une souris grise.
Elle est académicienne, rappelons-le.
C'est des gens qui, quand ils parlent, ils réfléchissent à ce qu'ils disent et ils tiennent des propos qui sont généralement sensés et prudents. Eh bien, ceux-là sont traqués. Ça veut dire que la barre est de plus en plus haut. Ça veut dire que bientôt, on va rétablir la loi des suspects, c'est-à-dire que sera considéré comme suspect non seulement celui qui n'aura pas dit de mal de la République, mais celui qui n'en aura pas dit de bien. Et donc, bientôt, on nous dira, vous n'avez pas dit que vous étiez contre l'immigration, mais vous n'avez pas dit que vous étiez pour.
C'est
donc,
pour ça que, bien qu'il ait baissé le pavillon après, Finkielkraut a eu le courage de résumer ce autour de quoi nous nous battons depuis des années, nous blanchis sous le harnois, comme vous dites, Serge, en disant, l'antiracisme c'est le communisme du 21e siècle.
Et alors,
j'ajouterai, vous le savez, que c'est même pire que le communisme, parce que ça parachève le processus communiste et bolchevique. Hein, c'est un nihilisme, mais nous en reparlerons, mais je crois que rien que pour ça, de toute façon, on ne lui pardonnera pas. C'est fini.
Ah, mais la preuve,
il a beau s'aplatir, il a dit des choses qu'on ne lui pardonnera pas, de même qu'on fusillait les gens dans les procès de Moscou, même s'ils avaient fait un manque d'honorable, ensuite c'était à la trappe, camarade.
Je vais vous en donner la preuve, enfin la confirmation. Donc, Alain Finkielkraut présente ses excuses sur Europe 1. Il déclare « Je présente des excuses à ceux que ce personnage que je ne suis pas a blessé. »
Il parle de lui-même, là.
« La leçon, c'est que je ne dois plus donner d'interview à des journaux dont je ne contrôle pas ou dont je ne peux pas contrôler le destin ou la traduction. » Et alors, on va voir Mouloud Aounit et on lui dit « Alors, ça vous suffit ?» Et il dit « Je ne veux pas le victimiser, mais je ne crois pas à ces excuses. On n'est pas dans une logique de dérapage. Cela fait quelque temps qu'Alain Finkielkraut est dans une bascule idéologique. Il a été un des rares intellectuels à défendre le pamphlet d'Oriana Fallaci, La rage et l'orgueil, et l'un des initiateurs de l'appel contre le racisme anti-blanc. Le président du MRAP, Mouvement contre le racisme, dénonce un type qui a dénoncé le racisme. On est dans une logique de fou furieux. Mais c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Parce que ça veut dire... Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, si on a décidé de vous flinguer, on vous flinguera.
Et qui que vous soyez.
Une bague dans et qui que vous soyez.
Mais... Académicienne, pilier de France Culture, voilà. Juif, dans le cas de Finkielkraut.
C'est quand même formidable.
Ce que ça exprime, Serge, je demande une minute pour faire mon petit couplet à moi. Ce que ça exprime, c'est le développement, l'aggravation permanente de, non pas d'un retour au totalitarisme. Nous ne sommes pas comme ces gens de Ralph Front, par exemple, qui recueillent des millions et des millions de subventions en racontant aux braves gens que le fascisme est de retour. Évidemment, c'est faux. Michel de Gégère, il y a deux ou trois semaines, sur cette antenne, a expliqué à des auditeurs qu'il sollicitait de dire que la christianophobie à laquelle il vient de consacrer un livre était le fait d'un complot. Il leur a dit non, essayez de comprendre. C'est le résultat des tendances de l'époque. Le mondialisme, ce sont les tendances de l'époque. Il y a une tendance animée effectivement par des gens hostiles, animés de mauvaises intentions, à une espèce de total, ce qu'on a appelé le totalitarisme soft, mais qui est de moins en moins soft. Et là, on en voit des exemples quand on s'attaque, quand d'une part des institutionnels comme Finkielkraut et Madame Carrère-Dancos, académicienne, doivent se réfugier à l'étranger pour dire en France, on peut plus s'exprimer, on peut pas dire ce qu'il en est des auteurs des violences en banlieue, et quand ils sont réprimés, frappés avec cette violence. Il y a d'autres indices, on en parlait tout à l'heure, dans la Russie stalinienne comme aujourd'hui, statistique rimait avec fantastique. On parlait tout à l'heure de ces statistiques sur la dette publique qui étaient vraiment sensationnelles, des statistiques sur le chômage. On parle de 2,5 millions de chômeurs alors que la réalité c'est 5,5 millions ou 6 millions. Il y a tous ces policiers et ces militaires qui sont inculpés en ce moment, les policiers en Seine-Saint-Denis, nos militaires en Côte d'Ivoire, de même que Staline s'en prenait à son propre peuple. Il y a toutes sortes, et tout ça est accompli par des staliniens ratés, des staliniens recyclés. Comme par hasard. C'est le nouvel internationalisme. Est-ce que je peux, pour finir, lire quelques lignes de Stéphane Courtois ?
Il vous en prie, seigneur.
Stéphane Courtois, tout le monde le connaît comme auteur du livre noir du communisme. Il anime une revue qui s'appelle Communisme. Et celle-ci, dans son numéro 61, là, que j'ai sous les yeux, qui date donc de... peu importe, puisque je ne trouve pas. Numéro 61 de la revue Communisme, il publie 6 lettres de Boukharine. Et Boukharine, c'est un peu l'ombre de Finkielkraut aujourd'hui, puisqu'il commence par se débattre. Quand Zinoviev et Kamenev, membres du gouvernement soviétique, du premier gouvernement soviétique, dirigeant de la révolution bolchevique, l'accusent d'avoir préparé des attentats terroristes contre Staline, contre le peuple soviétique, ils commencent par se débattre pendant quelques mois, et puis conclut Stéphane Courtois, ouvrez les guillemets, il est stupéfiant de constater qu'après un peu plus d'une année de ce travail de destruction des âmes, Boukharine en arrive à adhérer totalement au point de vue de l'homme qui va l'envoyer à la mort. Au début, n'ayant pas encore compris où l'engrenage va le mener, et se tenant pour un bon communiste, il se débat, proteste de son innocence, cherche à la démontrer dans les plus petits détails, et ne manque pas d'applaudir bruyamment à la liquidation de Zinoviev et de Kamenev. Il souligne le caractère absurde de la situation. Comment un homme aussi dévoué peut-il être accusé ? Encore le 16 janvier 37, dans sa lettre à Staline, il résiste. Le mensonge peut me tuer, mais il ne me contraindra pas à me calomnier moi-même. 10 mois plus tard, c'est un homme brisé qui, dans une pitoyable autocritique, s'adresse à Staline, approuvant la grande et audacieuse idée de purge générale, reconnaissant qu'il doit expier son péché original, son opposition momentanée à Staline, demandant pardon et finissant par supplier son bourreau de lui accorder une mort relativement douce. Alors, quand on voit Finkielkraut qui commence par demander pardon, par se désigner lui-même comme un étranger auquel il ne serrerait même pas la main sur Europe 1. Et 3 jours plus tard, vous avez, Serge, la page du Monde sous les yeux, par dire « j'assume » et à dire que « ah, quand même, il a un peu voulu dire ce qu'il voulait dire », on imagine la pression de la pantoufle qui a remplacé la botte stalinienne. Nous avons une pantoufle sur la nuque, mais c'est une pantoufle, mais elle est sur notre nuque. Et il ne faut pas attendre qu'elle nous étrangle, qu'elle nous assomme. Et là, je finis en m'adressant aux gens qui hésitent encore à s'abonner, par exemple, au Libre Journal. Et je leur répète, n'ayez pas peur. Je ne suis pas le premier à le dire. N'ayez pas peur de votre concierge et de votre facteur. Envoyez 110 euros pour l'année 4 à SDB, 4 places France Lys, 75 010 Paris.
Il est très très bien, ce garçon.
Il est très bien. Et d'ailleurs, il aurait pu ajouter 10 euros à la griffe 70 boulevard Saint-Germain pour faire face au procès de Moscou.
Vous ne voulez pas d'argent, mon gendre ?
Non.
Bon, Jean-Pierre.
Serge, je peux vous dire les derniers petits messages ?
Oui, si vous voulez aller donner les messages, puis après on donne la parole à
Jean-Pierre. Ils ont écrit gros exprès. Alors. De quoi se plaignent nos intervenants? C'est très bien d'avoir à payer des intérêts de dette. Bientôt, la France sera dans la même situation que les pays du tiers-monde. Et alors, on lui fera cadeau des 10 intérêts. Attention, attention, nous dit cet auditeur, ne confondez pas fracture ethnique et facture ethnique.
Ben, l'une conduit à l'autre. Hein.
Alors, question de gros sous. Vous prenez un terrain de foot de 90 mètres sur 45, ouais. Vous entassez les billets de 5 euros sur toute la surface, la dette de 2600 milliards d'euros représente en hauteur un immeuble de 33 étages.
Pas mal, quand même.
Difficile à vérifier. Bon, Monsieur Bouteflika...
Pourquoi vous voulez vérifier ? Il faut faire confiance.
Monsieur Bouteflika, qui nie les bienfaits de la France, se trouve dans un hôpital français. Qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense que si les médecins avaient un peu de sang, ils le soigneraient.
Ben moi, j'ai dit, on garde Bouteflika jusqu'à...
On le garde
à l'hôpital jusqu'à ce que l'Algérie nous règle ce qu'on lui doit. Et selon mes estimations, c'est à peu près 2000 milliards d'euros.
Il y a quand même un politique qui pense que la colonisation a été bénéfique. C'est le socialiste Georges Frêche.
Oui.
Les socialistes, attention, hein, les socialistes en 49 ont décrété un samedi matin que les billets de 5000 francs n'avaient plus cours. Il y avait alors peu de comptes en banque et beaucoup d'économies en liquide ont été flouées.
C'était le coup des lessiveuses, on appelait ça.
Les lessiveuses. Pour information et celle de vos auditeurs, à question au gouvernement, un député maire est intervenu au sujet des mariages blancs. Ce député maire, M. Gros Didier, s'est fait traiter de nazi par les socialistes pour avoir parlé des you-you qu'il entendait dans sa mairie au moment de ses mariages. Et il s'est fait traiter donc de nazi.
Serge no comment.
Question. Serge de Beketch est-il solidaire avec la révolution bleue de Monsieur Reichmann?
Je sais pas. Oui, j'ai entendu. Alors là, vraiment, il paraît qu'il faut se balader avec
une écharpe bleue.
Alors il y a une dame qui m'a téléphoné fort justement en disant mais quel bleu? Bleu roi, bleu ciel, bleu pétrole, bleu marine.
Il aurait fallu préciser.
Orange.
Parce que parapluie.
C'est le coup de la révolution ukrainienne, enfin de pseudo-révolution. Non, je ne suis pas du tout partisan de tout ça. D'abord, je ne suis pas un libéral, donc je ne suis pas pour une révolution libérale. Pourquoi pas démocratie aussi pendant qu'on y est. Bien, Jean-Pierre, vous pouvez attendre ou vous voulez parler tout de suite et vous en allez? Parce qu'il en a pour 5 minutes, hein, monsieur Fedorovski, je vous rassure.
5 minutes, si tu me donnes 5 minutes, je fais 5 minutes maintenant.
D'accord, alors, j'ai invité Jean-Pierre Maugendre, comme chaque année, pour célébrer le 40e anniversaire de la vente...
La 14e.
14e vente du livre de Renaissance catholique.
Voilà, donc en 5 minutes, donc la 14e fête du livre de Renaissance catholique. Donc pour la deuxième année consécutive, nous serons donc au domaine de Grand Maison à Villepreux, puisque je vous rappelle que l'an dernier, nous avons été chassés du palais des congrès de Versailles. Nous avons renouvelé au début de l'année 2005 notre demande pour pouvoir retourner au palais des congrès. Et là, nous avons eu une réponse tout à fait ubuesque, puisque nous savions que c'était suite à diverses manœuvres que nous n'avions pas pu retourner au Palais des Congrès en 2004. Donc nous avons pris nos mesures et début 2005, en janvier, nous avons écrit en disant voilà, on souhaiterait pouvoir louer le Palais des Congrès pour 2005 et pour 2006 et pour 2007, de manière à ne pas être pris par des problèmes d'agenda au dernier moment. Et la réponse a été extrêmement savoureuse puisqu'il nous a été dit que pour 2005 c'était trop tard, tout était déjà réservé, et que pour 2006 et 2007 on ne pouvait pas s'engager parce que là c'était trop tôt. Donc là je crois que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Le maire de Versailles.
Alors ça dépend pas du maire, c'est-à-dire non, ça dépend, c'est sous-traité à une société d'organisation de manifestations, etc., qui dépend la Chambre de commerce de Paris.
Heureusement que ça ne dépend pas du maire antiraciste de Versailles.
Bah, de toute façon, ça ne pourrait pas être pire pour nous. Voilà, donc nous nous retrouvons à Villepreux pour la deuxième année. Alors, il y a des avantages.
Une fois de plus, le diable porte-pierre, il y a quelque chose...
Alors voilà, donc...
Parce que on est quand même bien mieux à Villepreux. Hein.
On est bien mieux, donc les avantages, on peut avoir la messe le matin. Donc la messe sera célébrée à 11h par le père Alain Hochmiller, donc qui est le prieur de la Sainte-Croix de Riaumont. Nous pouvons déjeuner sur place, ce qui était totalement impossible au Palais des Congrès de Versailles. C'est interdit. Voilà, donc ce qui contribue, c'est un peu ce qui nous a amené un peu également à changer le nom de cette journée, hein, de journée dédicace. Nous appelons ça une fête du livre, puisque là, l'objectif est d'en faire une journée familiale où les gens peuvent venir passer toute la journée et pas uniquement faire leurs achats pour Noël. Donc ça, ce sont les avantages. L'inconvénient, alors, il y a un inconvénient majeur, certes, c'est que c'est inaccessible par les transports en commun. C'est-à-dire que vous êtes obligé soit de venir en voiture, soit nous avons mis en place un service de car à l'arrivée des RER, donc à clé, donc soit à la gare de Saint-Nom-la-Bretèche, soit à la gare de Villepreux-les-Clés. Donc on peut aller chercher les gens en bus. Bon, ce qu'il faut savoir, je le dis aux auditeurs de Radio Courtoisie, notre déménagement l'année dernière nous a fait perdre 30% de participants. C'est-à-dire que le déménagement, le fait que ce soit plus accessible au transport en commun, on a perdu 30% de participants, ce qui n'est pas...
Il y avait quand même 1500 personnes, non ?
Alors, il y avait un peu plus de 1500 personnes quand on était à Versailles. L'an dernier, il y avait un peu moins. Mais bon, de toute façon, l'important, c'est de faire ce qu'on a à faire. Je crois que ça s'est passé dans un climat, l'ambiance... Bon, là, un certain nombre de personnes ici présentes étaient là l'an dernier, seront là cette année. Bon, je pense qu'on... On peut voir dans de meilleures conditions les auteurs et on peut passer une journée bien plus agréable, me semble-t-il. Alors, les auteurs que nous avons programmés pour prendre la parole, nous avons cherché un petit peu à nous caler sur l'actualité. Bon, Patrick Goffman l'évoquait tout à l'heure, donc Michel de Gégère interviendra sur son livre, son enquête sur la christianophobie, bon, qui je crois est un des succès de librairie de notre famille d'esprit depuis la rentrée scolaire. Ensuite, nous avons demandé à Florence de Baudus de se livrer un hommage de Vladimir Volkov, à partir de son livre donc Le Monde de Vladimir Volkov. Et nous avons également demandé aux éditions de Chiret, donc qui nous fournissent la librairie, de pouvoir mettre à disposition l'ensemble des livres aujourd'hui disponibles de Vladimir Volkov. C'est-à-dire que c'est également une occasion, je pense, pour un certain nombre de personnes qui ont tel ou tel titre, de venir compléter, puisque là, tout sera disponible à cette occasion. Nous avons ensuite souhaité... marqué de notre manière, puisque nous serons pile entre les événements, hein, puisque la loi du 9 décembre 1905 a été promulguée le 9 et puis a été publiée au journal officiel le 11, donc nous ce sera le 11. Donc nous avons demandé deux interventions sur ce sujet, une intervention à Jean Madiran sur la laïcité dans l'église. Bon, je crois que c'est un maître ouvrage, hein, vraiment sur ce sujet, et également Jean Madiran nous traitera de son dernier ouvrage, puisqu'il vient de consacrer un livre à l'histoire du catéchisme, 1955-2005. Bon, je pense qu'aucun auditeur ne l'a encore aujourd'hui. Il devrait être disponible dans 10 jours. Bon, je pense que comme toujours pour les ouvrages de Jean Madiran, ce sera parfaitement clair, tout à fait abordable et certainement un événement sur ce sujet. Et puis la dernière conférence sera celle de Jean Sévilla. Jean Sévilla, donc, qui traitera de son ouvrage « Quand les catholiques étaient hors la loi », puisque cet ouvrage traite essentiellement des lois de séparation de l'Église et de l'État, et nous serons tout à fait dans l'actualité à ce moment-là. Alors nous avons organisé un certain nombre de distributions de tracts, nous avons fait un mailing, etc. Alors par rapport au mailing qui a été envoyé, il y a 2-3 auteurs supplémentaires. Il y en a un que je me permets de signaler, j'espère sans faire de susceptibilité, parce que je crois que c'est vraiment un très grand monsieur et que sa présence en France est rare, c'est Eugenio Corti. Donc Eugenio Corti sera là, je me permets de vous conseiller son dernier livre là que j'ai dévoré en 2 jours, c'est Caton l'Ancien. Donc il fait sous forme de scénario de film une biographie de Caton l'Ancien, c'est extraordinaire, c'est un autre monde et que d'enseignements pour aujourd'hui. Je pense que en particulier tout ce que développe Caton, son opposition à Carthage, c'est d'abord une opposition à l'économisme, parce qu'il dit Carthage, les gens qui dirigent ce sont des marchands, et la seule chose qui les intéresse c'est de gagner de l'argent, et les valeurs que nous défendons à Rome, c'est autre chose. C'est le droit, c'est la justice, c'est l'honneur. Bon, et je crois qu'on voit vraiment l'actualité de ce propos, qui pourtant sont de plus de 2000 ans maintenant. Et puis également, je me permets de signaler la présence d'un autre auteur. Je crois qu'il avait été prophétique il y a 30 ans. Jean Raspail sera là. Je crois que c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas lu son Camp des Saints de se le faire dédicacer. Voilà.
De se faire dédicacer le dernier.
Voilà, et le dernier, bah, donc que je n'ai pas encore lu, que je compte acquérir à l'occasion. Là,
magnifique livre.
Magnifique.
Un admirable livre.
Alors voilà. Bon. Je crois que...
C'est promenade... Le titre, c'est un peu long et comme souvent...
L'Amérique mythique, tout ça dépasse c'est la fiction, ça c'est...
Ouais. Vraiment, c'est très beau livre.
Alors je crois qu'il y a tous les éléments pour faire une grande journée. Ben, la réussite, je crois, elle est en partie entre les mains des auditeurs de Radio Courtoisie. Hein, voyez, tout à l'heure, on ne demandera pas d'argent, on vous demande de venir, on vous demande de faire des cadeaux qui seront utiles aux auteurs, qui seront utiles aux éditeurs, qui seront utiles aux diffuseurs et qui seront utiles aux gens à qui vous ferez le cadeau. C'est-à-dire un cadeau intelligent, à mon avis, il n'y en a pas tant que ça par les temps qui courent. Et ben, ma foi, je souhaite que tous les auditeurs de Radio Courtoisie puissent profiter de l'opportunité. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça.
On va les y aider un peu, oui, en leur disant que la journée en question, c'est le 11 décembre prochain, de 12 à 18 heures donc, à Villepreux, où on peut accéder par navette gratuite à partir de Versailles-Rive-Gauche.
Bretèche.
Saint-Nom-la-Bretèche et Villepreux. Voilà. Moi, j'enchaîne en disant que, en rappelant que la veille, samedi 10 décembre, Serge de Becquet, je dédicace le dictionnaire de la colère à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, métro Saint-Michel, sortie 3 Notre-Dame Petit Pont.
À profiter de suite. Je serai le lendemain d'ailleurs aussi à Renaissance catholique. Je vais...
On y sera tous.
Oui, oui, je vais signer au moins trois.
je regardais mes listes.
Voilà, si tu me permets, Jean-Pierre, c'est la sortie de mon livre L'islam sans complaisance. Et je vous prie de croire, c'est réellement sans complaisance. Voilà.
Avec grand plaisir, bien sûr.
Vous y serez, Vladimir Pedarovski?
Peut-être je n'en serai pas cette fois-ci, mais en tout cas, je voudrais vous dire que ce sera magnifique aussi de regarder l'hommage par rapport à mon ami Volkov, notre russe.
Qui... Un frère orthodoxe, n'est-ce pas?
Bien sûr, frère orthodoxe. D'autre part, qui nous a quittés cette année, mais c'est vraiment une occasion de découvrir ces livres qui sont absolument étonnant. J'ai relu l'autre jour son histoire de la désinformation, la petite histoire de désinformation. Je voudrais vous signaler que ces jours-ci, j'ai beaucoup pensé à lui vraiment dans cela. Et je pense que les gens qui vont venir chez vous à votre fête, je signale, c'est le 13. Le 13 décembre.
Dimanche 11
décembre. Le 11 décembre, je suis certain qu'ils vont faire découvrir ces gens-là comme Raspail, ces gens-là qui vont venir, et tout ça, ça vaut la peine.
Bien, mais il y a une autre chose qui vaut la peine, on va en parler tout de suite. Merci Jean-Pierre.
Merci beaucoup, merci beaucoup aux auditeurs.
Et puisqu'on est dans les annonces, je voudrais vous dire qu'on va signer aussi, dédicacer quelques livres, notamment le mien, Paris-Saint-Pétersbourg, mais aussi la fabuleuse histoire d'Icône, à la librairie que vous connaissez tous, j'imagine bien, c'est la librairie...
France Livre, qu'on appelle...
France Livre, non, d'une part, je vais venir aussi là-bas, mais d'autre part aussi, à la librairie 66, avenue Théophile Gautier, Marie-France Béjarry, je vais signer en réalité demain, c'est-à-dire demain, le premier, à partir de 15h, et on va présenter, vous savez, les temps sont tristes, ce que je vous ai écouté, vraiment, les temps sont tristes, et pour soigner les tristesses du temps. Parfois, il faut s'évader. Et quand il y a, bien sûr, ces images sacrées dont on a parlé avec Fabuleuse Histoire d'Icône, mais aussi avec ces neiges immaculées, avec ces écrivains dont on a parlé, on va signer Paris-Saint-Pétersbourg, mais aussi il y aura d'autres livres qui vont permettre vraiment de s'évader, puisque la Russie le permet, Dieu le sait.
Dieu sait qu'il y a la place. Et également, donc, vous serez le 3, c'est ça, samedi 3.
Absolument.
Chez notre ami Jacques Lowe.
À partir de 15h.
Rue du Petit Pont. Alors, je disais, on va parler de ce livre superbe qui s'appelle Paris-Saint-Pétersbourg, une grande histoire d'amour. Et qui est, ben voilà, ce qu'indique le titre, une histoire d'amour étrange entre la Russie et la France.
Étrange parce que, vous savez, quand j'écoute aujourd'hui les gens, je pense à mon ami Vladimir Volkov, qui m'a dit, juste avant de partir, en décédé, il m'a raconté l'histoire de son père. Son père, c'était laveur de voitures. Et vous savez, quand il y avait ça, on était autrefois pas les brûleurs de voitures, nous étions les laveurs. Des voitures. Et on était, je cite notre poétesse qui aimait beaucoup la France. La poétesse Marina Tsvetaeva, une des grandes poétesses de tous les temps. Il a posé la question, pourquoi tant d'affinité entre la France et la Russie? Quand même, les Français sont cartésiens, les Russes sont fous. Vous savez, on est bizarre quand même, excessif.
Ils sont pas fous, ils sont quantiques.
Voilà. Ah, vous êtes gentil.
Un peuple quantique.
Oh, mais enfin là. Et je dois vous dire, elle a dit parce que on est complémentaires. Complémentaires. Mais il y a une phrase qui m'a frappé. Elle a dit, nous sommes venus pas pour prendre,
mais pour donner.
Vous comprenez avec Diaghilev, avec ses égéries russes. C'est vrai qu'on était les laveurs des voitures. Mais c'est vrai qu'on est venus pour enrichir cette culture qui était une culture dans les réalités plein de séduction pour les Russes. Moi, j'étais formé par les gens. Les Français n'aiment pas tellement Maupassant. Moi, j'adore Maupassant. Je trouve que... Oui, mais enfin, c'est un énorme écrivain qui m'a formé. Mais vous savez, pour nous, c'était quelque chose d'essentiel, cette culture-là. Et c'est pour ça que je ne vous cache pas, vous défendez la langue française. Je partage complètement votre démarche. Je pense que la France, la culture française, doit être défendue. Parce que vous dites « n'ayez pas peur ». Je dis même, ne soyez pas triste. Je voyage à travers la France. Je regarde vos yeux, vous comprenez? Et c'est les yeux qui comptent pour nous, vous comprenez? Et je ne pense pas qu'il faut baisser les bras, ça compte. Je me souviens, c'est vrai que maintenant, bien sûr, il y a des problèmes, il faut avoir les volontés. Mais je me souviens du temps quand la vie s'est arrêtée, le théâtre français venait. Et à Moscou, l'autre jour, j'ai dîné avec Jean Piat, que j'aime beaucoup. Vous savez, il se souvient de ce voyage, 56. La vie s'est arrêtée, les gens parlaient français. Et ça vaut la peine. Aujourd'hui encore, vous savez, quelle est la cote de la France? On dit, ah, les Russes, parce qu'ils exagèrent, parce que c'est fou. 95%. Et la cote des États-Unis, 5%. Vous comprenez? Vous avez quand même des atouts. Mais cela dit, c'est un livre à clé. C'est caché derrière les histoires chaque fois. Quand oui. Paris-Saint-Pétersbourg, vous savez, je voudrais faire plaisir les gens. Raconter les histoires aujourd'hui, comme ça, structurées, qui provient de la littérature du 19e siècle, dans la tradition, c'est aussi pas politiquement correct. Oui. Et je sais vraiment... Vraiment, qu'on plonge dans ces histoires formidables qui dépassent les fictions. Mais ça a commencé avec l'ambassadeur qui a failli devenir tsar. Oui, ça a continué. On est la veille d'Austerlitz. Ouais. Les rapports bizarres entre Napoléon et Alexandre. Et ça continue au
19e. Ça fait 1000 ans que ça dure, quand même. Ça fait
1000 ans, parce que... 1000 ans, c'est vrai, mais c'est quand même exagéré, 1000 ans.
Bah oui, mais
je voudrais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'il y avait la reine russe qui est venue de la Russie.
Anne de Kiev.
C'est vrai qu'il y a une belle histoire d'amour qui s'est passée. C'est vrai qu'il a amené, vous savez, l'évangile, tous les rois, vous savez, français, ils prêtaient le serment, vous savez, à Reims, parce que cette reine russe venue de Kiev est apportée l'évangile. Et, mais après, il y avait une trêve, mais s'est épanoui avec Pierre le Grand, qui débarque en 1717, il débarque, je voudrais citer la France,
oui.
Puisqu'on est dans les choses sérieuses. Il débarque, il ne voulait pas voir les maîtresses du roi, il voit Richelieu, il adorait les mémoires de Richelieu, il s'agenouille et puis il a dit une phrase prémonitoire, il a dit « La civilisation française périra par son luxe et sa mollesse ». Mais c'est pas ça, c'est pas le personnage de Pierre le Grand qui me subjugue le plus. Moi, je suis maintenant aimé en Charente, vous savez, puisqu'en Charente, il y a un petit château, qui existe jusqu'à l'heure actuelle. Un petit château, vraiment médiéval, et de ce château est venu en France un personnage que j'ai fait découvrir avec les archives, dans la réalité. Il s'appelait Marquis de la Chétardie, qui faillit devenir ambassadeur.
Qui a failli devenir le tsar.
Qui a failli devenir ça parce qu'il a eu une histoire d'amour avec la tsarine, qui l'a placé au trône de la Russie, et il a failli devenir le tsar. Ça, c'est la réalité qui dépasse la fiction, et ça a continué avec Catherine, bien sûr, avec ses philosophes de longue guerre. Ça a continué.
Il y en a beaucoup qui ont failli devenir tsar avec elle, quand même, il faut bien l'avouer.
Avec Elisabeth?
Oui,
avec
Catherine. Non, mais vous savez, détrompez-vous. Catherine, il a eu moins d'amants qu'une Française moyenne. 11,5, on me dit dans les journaux.
Combien de places pour un cul de jatte, quoi.
Alors, sérieusement parlant, Catherine, une vraie histoire d'amour, Catherine, que je raconte, on peut, c'est quand même avec Potemkin, et ça nous réconforte tous, parce qu'elle a dit, les vraies histoires d'amour, c'est après 40 ans. Vous comprenez? Et puis, il rencontre son beau général. Ça avait 39 ans. Et l'amour absolu, l'amour sage, après... Tout ça, c'est les histoires... Vous comprenez, parfois, on est triste. parfois il fait froid, et Dieu sait avec ce livre, Paris-Saint-Pétersbourg, les neiges sont là, mais surtout il y a la chaleur des cœurs, vous comprenez? Et tout ça, c'est, il y a les Cosaques qui sont venus à Paris, et puis l'amour à la Cosaque, et puis bistrot, bien entendu, vous connaissez,
oui,
ça vient bistrot, et puis ces histoires des va-et-vient sentimentales. Quand je regarde, vous savez, je n'ose pas même citer, mais c'est magnifique ces histoires. Vous comprenez les égéries russes? L'autre jour, j'ai pensé à cette femme qui inspirait Matisse. Vous la connaissez tous. Elle s'appelait Lydia, qui est venue de là-bas. C'est une histoire magnifique, très cachée, mais c'est une histoire sublime, parce que cette femme, vous la connaissez, Lydia, dans tous les grands musées du monde, il y a, Matisse, il y a ce bleu sans fond. Mm. Vous comprenez? Et puis Dina avec Mayol. Et puis ça a continué avec Olga, Picasso, Gala Dali avec tout ça. Vous savez, on peut citer les choses à l'infini. Bashkirtsev et Maupassant, ou bien pourquoi pas
Elsa Triolet.
Elsa Triolet, bien entendu. Elsa Triolet, tordue, responsable. Mais vous savez, avec ce livre, je parle de tout. Je parle de vous avez parlé de Staline. Je vais vous dire. Vous comprenez, soyons très honnêtes, vous savez, nous autres Russes, avec nos folies, nous avons aussi marqué très profondément le XXe siècle. Mon ami qui vient de disparaître, Yakovlev, il donne, Courtois, il donne d'autres chiffres, mais il donne documenté 25 millions. Mais combien de gens, millions tués, vous comprenez, c'est terrible le truc. Mais je voudrais vous dire, avec Staline, c'est une autre histoire. Staline, c'est un des grands monstres du XXe siècle, cela va sans dire. Mais vous comprenez ce qui me... Pourquoi je pose ces questions? Je raconte comment Aragon était piégé, notamment par Staline. Mais, sérieusement parlant, vous comprenez, si vous lisez les manuels... Je m'amuse de lire les manuels d'aujourd'hui, sur différents sujets, les manuels scolaires français. Ils présentent Lénine, intellectuel, mais un peu tueur, mais quand même un grand intellect, un grand homme. Trotsky, c'est carrément le brillant intellectuel. Trotsky, inventeur des otages enfants, systématique. Et Staline, une sorte de nullité, quand même, médiocrité. Détrompez-vous. Staline, c'est un grand monstre, mais il n'était pas une médiocrité totale. C'est quelqu'un qui connaissait l'histoire, vous savez, qui sait. Moi, pour revenir à ces histoires de l'icône que je recommande tout particulièrement, c'est ce livre, La fabuleuse histoire de l'icône, parce que c'est l'histoire de l'icône, vous savez, c'est vraiment, c'est un vrai roman en soi, mais roman qui dépasse ce qu'on peut inventer, les choses comme ça, les icônes, comment elles ont été créées en Byzance. Roublov, Kandinsky, il disait, je puisais dans les couleurs de Roublov, ce moine et peintre à la fois que vous connaissez grâce à cela. Mais je reviens à Staline, pourquoi? Parce que, vous comprenez, aussi, il savait piéger tous. Quand Hitler, il était à quelques kilomètres de Kremlin, il a sorti les icônes, et il a prononcé ces phrases étonnantes. Il disait, vous vous souvenez de ces phrases quand il s'est adressé, quand il était... Il a dit, au nom de Christ. C'est une utilisation, évidemment, manipulation. C'est pour ça que je dis, c'est un grand manipulateur. Au nom de nos saints, il disait. Et en plus, cette dingue qu'il dit, normalement c'est camarades, comme vous avez si bien dit tout à l'heure. Mais à ce moment-là, qu'il n'avait rien à porter, il prononce... Frères et sœurs, c'est pour ça que je dis.
Pour vous permettre de Vladimir Fedorovski de reprendre haleine, je voudrais dire qu'il y a une continuité dans ce domaine-là de la part de Staline, parce que pendant la guerre civile, vous savez que les régiments, il y avait des régiments entiers qui passaient d'un côté et puis de l'autre et ainsi de suite. Et quand Staline ou un de ses camarades avait réussi à ramener un régiment dans le giron du pouvoir soviétique, son communiqué c'était nous l'avons ramené à la foi orthodoxe. Il faut se rappeler quand même aussi que c'était un ancien séminariste.
Ancien séminariste. Mais c'est pour ça que, vous savez, il faut revenir. Pourquoi je voudrais raconter Paris-Saint-Pétersbourg? Bien sûr, il y a des belles histoires. Mais il y a les histoires tragiques avec Paris-Saint-Pétersbourg aussi. Quand Saint-Pétersbourg s'appelait Leningrad, il y avait le blocus de cela, mais aussi combien de gens que Staline a tués. Mais tout cela pour dire que cette affinité extraordinaire extraordinaire. C'est vrai que, vous savez, on dit, ah, c'est un livre qui marche parce qu'on est à la mode un peu maintenant, les Russes. Parce qu'il y a le théâtre russe, Mariinsky se trouve, il y a cette exposition, peut-être vous avez vu l'exposition au musée d'Orsay. Mm-hmm. Très intéressante, surtout.
Il y a toujours, jusqu'au 18 janvier.
De janvier, très intéressante l'exposition. Il y a aussi la mode tout court parce que, comme il fait froid, maintenant tout le monde porte les chapkas, vous comprenez, les choses comme ça. Mais au-delà de
ça. On a été les premiers, nous, hein.
Ah oui, Paris, mais, voilà, à Paris, bien sûr, le chapka et tout ça, les modes des tsars, il dit. Mais ouais. Pour les plus tordus, ils disent aussi les modes des bolcheviks. Oui. Mais enfin, je voudrais vous dire aussi ce que ça dépasse la période de froid. Il s'agit de quelque chose essentiel pour moi. Parce que, vous savez, sous-titre de ce livre, il y a un bandeau. Et j'ai décidé de faire quelque chose qui est vraiment très peu politiquement correct. J'ai dit hommage au génie français.
Oui, à ça j'ai trouvé que c'était assez culotté quand même.
Mais il y a beaucoup d'architectes de Saint-Pétersbourg qui
mais
sont français.
Mais parce que les Français, je vais vous dire, quand on dénigre
systématiquement. Et les peintres de l'Ermitage, ils
les
sont pas chinois.
Les peintres de l'Ermitage. Et puis les gens, les Russes qui aiment la France, je voudrais vous dire ça, comme je suis tombé de la lune, je peux me permettre de dire, et ça je ne serai pas censuré, je dis, défendons la culture française. Défendons la lecture française. La France peut faire énormément de choses. Et là, ce potentiel historique. L'histoire nous donne des clés pour l'avenir et l'histoire de Paris-Saint-Pétersbourg, hommage au génie français, c'est essentiel. Pour moi, j'étais réconforté. C'est vrai que la veille des fautes de Noël avec les neiges et le froid, c'était des choses à propos, mais ça dépasse les circonstances, ce que je voudrais
dire. Je crois qu'il y a une dimension dans l'intérêt que les Français peuvent porter à la Russie aujourd'hui. Vous dites c'est une mode. C'est vrai qu'il y a un côté mode. Mais moi, ce qui me frappe énormément dans la situation actuelle, c'est le modèle de la preuve que la Russie nous apporte que rien n'est jamais perdu. Parce qu'en France, on dit, c'est foutu, à vue d'homme, on s'en tirera pas, on est cuit, le pays est mort, il n'y a plus d'élite, il n'y a plus d'hommes politiques, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de littérature, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des banlieues qui brûlent, des gens qui chôment, des fonctionnaires qui accablent les malheureux, etc. Et c'est la continuation, la France est le dernier pays soviétique. Et donc, on s'en relèvera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a vu il y a un mois, un peu plus peut-être, les cendres du général Denikin retourner en Russie.
Ça, c'est inimaginable. C'est un miracle.
Si on nous avait dit ça il y a 10 ans,
évidemment.
On aurait dit, mais vous êtes complètement dingue, c'est impossible.
Réconciliation. Mais je ne vous cache pas que je suis très fier que ça se passe comme ça, cela va sans dire. Et à la limite, je vais vous dire aussi, quand les gens proches de Poutine, aujourd'hui, ils disent qu'il faut enterrer Lénine. Quand j'étais aux affaires, vous vous souvenez, avec l'affaire de on a gagné contre les putschistes du KGB, on a voulu enterrer.
D'ailleurs, dans le bouquin, ça se termine par.
Absolument
pas. L'évocation de ça.
L'évocation de ça pour un peu de personnel.
Ah aussi. Oui, mais c'est formidable. C'est,
bien sûr,
c'est un chapitre sur
Raïssa. Comment ça s'est passé? Au fait, Raïssa, qui était une grande chérie politique, je voudrais encore une fois réconforter mes actrices racontant les histoires d'amour entre Gorbatchev et Raïssa, mais c'était une occasion de raconter la fin du communisme.
Ouais,
parce que la fin du communisme, je ne vous cache pas, je considère que c'est une sorte de miracle. Miracle parce que ça aurait pu terminer dans les fleuves du sang.
Oui,
parce qu'il y avait 10 000 têtes nucléaires quand même là-bas, vous comprenez, il suffisait de bâger. Et puis, miraculeusement, ça s'est terminé comme ça. Et vous imaginez bien le retour de Denikin. Maintenant, ils disent ils vont enterrer Lénine. Et c'est bien, finalement. C'est bien. La seule chose où je ne suis pas peut-être d'accord, je fais un bémol, puisqu'ils vont détruire dans la foulée le mausolée Lénine. Et le mausolée Lénine, c'est gênant pour moi. On revient au problème de l'histoire, parce que mausolée, c'est non seulement Lénine. Lénine, c'est un grand tueur, cela va sans dire, un grand assassin. Mais vous comprenez, mausolée, il a vu tellement de choses. C'est une sorte de monument. Comment traiter l'histoire? On revient à ce que vous avez dit. Comment assumer l'histoire? Vous avez parlé de tout ça.
C'est vrai que on peut penser que le démantèlement de la Bastille, c'était un peu la même chose. Si on pouvait aujourd'hui visiter la Bastille, ça nous remettrait bien en ligne la réalité historique de la Révolution.
La réalité historique et toutes ces choses-là. Assumer l'histoire, c'est très, très difficile.
Vous savez ce que disait Volkov, que tant qu'on n'aurait pas jeté la charogne sur le tas d'ordures, la Russie ne pourrait pas sortir de la malédiction.
Moi, je pense. Mais c'est un grand problème de fond. de l'histoire. Et finalement, vous savez, cette fois-ci, où est la clé pour comprendre cette longue histoire de la Russie? Je reviens, c'est pas par hasard que j'ai poussé à publier cette fabuleuse histoire de l'icône de Tania Vilmans, parce que cette longue histoire de la Russie, c'est aussi une certaine foi de la Russie. Vous savez, on a vécu des choses dans la Russie, comme la France vit des crises terribles. Mais nous étions anéantis. Il y avait l'invasion des Tartares. Par exemple, les icônes de Roublev, quand ils sont nés, par un élan absolument fabuleux, que Tania Vilmans raconte dans ce livre. Parce que quand il y avait quelques gens désespérés, les moines, ils ont commencé dans les taïgas, dans les forêts, vraiment, dans les neiges profondes de la Russie, ils ont commencé à construire les ermites. Et puis les monastères. Et puis il y avait 500 monastères. 1500 monastères en quelques années. Vous comprenez? Et la Russie a commencé à renaître.
Mais c'est exactement la même chose en France.
Bien sûr.
Au moment des grandes invasions.
Bien sûr.
La France se recroqueville en quelque sorte dans des monastères et où va être sauvée la culture, va être sauvée ce qu'on a de science à cette époque-là. Et,
bien sûr.
Par des religieux qui sont une toute petite poignée.
Tout à l'heure, nous faisions chacun de notre côté des citations du vocabulaire chrétien de Staline. Ça ne tenait certainement pas seulement au fait qu'il avait débuté dans ses études comme séminariste, mais il y a une continuité. Boukharine, encore tout à l'heure, que j'ai cité, sa dernière lettre à Staline se termine par des accusations de péché originel contre lui-même, de pardon de toute éternité, etc., etc. Donc il y a manifestement une continuité dans le communisme. On l'a démontré, je crois, hein, ce livre de Monroe, je crois, il y a des aspects pervertis et
c'est une caricature
une caricature du christianisme. Alors
le système,
pour finir, moi je, d'ailleurs que je parle,
je parle, je pense que c'est beaucoup plus grave. Comme vous le savez,
c'est une version satanique, bien sûr, parce que
vous savez ce que j'ai lu, j'ai vu une fois dans ma longue vie diplomatique, une fois j'ai visité avec Saddam Hussein qui la bibliothèque de Staline. Et je voudrais vous dire, heureusement que j'ai copié ça, parce que j'ai une photocopie de ça. Vous savez, j'ai vu le manuel de la magie noire annoté par Staline. Quand j'étais étonné, vous comprenez, c'est beaucoup plus grave qu'on le pense. Et je suis persuadé que Staline, quand il utilisait ce langage, il y avait quelque chose de très 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 intéressant à regarder.
Mais de la part du peuple russe, ce que je voulais dire, et j'en aurais fini, d'autant que je suis obligé de m'en aller à présent, de la part du peuple russe, on peut dire qu'il y a une espèce de continuité dans la foi qui a été dévoyée, et que, je citerai pour finir mon ami Édouard Limonov, dont je dois dire que malheureusement, après 36 appels, le parti national bolchevique, si pittoresque, a été définitivement interdit par la Cour suprême de la Russie. Limonov faisait remarquer, je crois que c'est dans la sentinelle assassinée par UH Dom, qu'il était quand même consternant et un peu mesquin de la part des Occidentaux de ricaner, d'avoir l'air de se réjouir méchamment de la défaite que représente malgré tout pour le peuple russe la chute brutale du communisme, si on veut bien considérer que les Russes ont mis leur peau au bout de la plus vieille utopie de l'humanité. Le communisme est une utopie qui n'est pas spécifiquement russe, qui est une utopie très ancienne, qui a des milliers d'années, et l'expérience en a été faite aux frais de la Russie, aux frais du peuple russe, de millions et de millions de morts. Alors, si on dit c'est une utopie qui était irréalisable, surtout dans ces conditions, surtout dans un pays arriéré et isolé, je vois que Bernard Anthony m'approuve de toutes ses forces.
Il n'y a pas lieu de
le reprocher, ni d'en accabler, ni le peuple russe, ni s'en réjouir. Au contraire, on devrait lui en être reconnaissant. C'est eux qui ont payé avec leur peau pour qu'on voit que c'est pas réalisable, ou pas comme ça, ou pas ici.
Non. C'est carrément irréalisable, mais vous savez, quand même, avec tout ça, 25 millions, c'est beaucoup entre nous pour tout ça. Il ne faut pas oublier d'où il y a un problème. Est-ce qu'on peut mettre les bourreaux et les victimes dans le même sac? Parce que Poutine, il dit qu'il faut tourner la page. Moi, ça, je ne suis pas. Vraiment, c'est un long débat, et de toute manière.
C'était la position d'Henri IV.
Bien sûr.
Ce que je crois, c'est que. c'est pas à la France de donner des la France d'aujourd'hui n'a pas le droit de donner des leçons au peuple russe d'aujourd'hui, parce que il y a dans l'attitude, vous disiez que vous aviez découvert dans la bibliothèque de Staline des livres de magie noire. Je suis à peu près certain qu'on pourrait découvrir la même chose dans la bibliothèque de certains hommes politiques français aujourd'hui. Il y a un bouquin qui est paru il y a quelques années qui racontait les manœuvres de l'ordre de la sorcellerie auquel se livrait par l'intermédiaire de mages qui faisaient venir d'Afrique, notamment des gens comme Mitterrand ou comme Chirac. Le bouquin est sorti, il a été publié, on en a parlé dans cette émission, j'ai même reçu l'auteur. Et quand on parle du sacrifice, que moi je considère comme un sacrifice humain, de dizaines de millions de Russes, dans les conditions qu'on connaît, c'est atroce, c'est impardonnable, c'est un sacrifice humain, un sacrifice aux puissances ténébreuses, mais exactement comme l'avortement en France aujourd'hui. Exactement. Quand on pense aux centaines de milliers d'avortements qui sont perpétrés aujourd'hui en France tous les ans, il s'agit d'un sacrifice humain, qu'on le veuille ou non. Il s'agit d'un sacrifice humain et d'un sacrifice qui est rendu aux puissances des ténèbres. Donc, il y a tout. Je crois que dans ces pays qui sont des pays de foi extrêmement forte et des pays de mission, je veux dire des pays messianiques comme la France ou la Russie, l'autre se déchaîne avec une particulière énergie. Il va pas aller emmerder, si j'ose dire, des pays où on pratique des religions pittoresques, des religions comiques ou des rituels rigolos ou des formes diverses et variées. De 250 000 sectes protestantes, ça ne gêne pas du tout, ça ne représente aucun danger. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'a rien à voir, j'ai regardé l'autre jour un documentaire qui avait été réalisé sur le cas initial de possession qui a inspiré le film L'Exorcisme. C'est un jeune homme qui était véritablement possédé, qui apparaissait comme possédé, et le documentaire raconte que quand les parents de ce jeune homme qui appartenait, je crois, à une secte baptiste, sont allés voir le pasteur de leur secte, il a examiné cet enfant, et il a dit « Moi, je peux rien faire, il faut que vous alliez voir un prêtre catholique. »
Non, mais c'est les histoires. D'ailleurs, le lien entre la magie et le politique, c'est une autre. C'est vraiment un jour, il faut faire l'émission à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de tout ça, à propos de ce qui s'est passé pendant la période. D'ailleurs, je vous signale que dans le livre sur Vorobova, il raconte aussi ce côté, disons, ténébreux, très intéressant.
Le rôle de Rasputin, extrêmement mystérieux.
Oui, oui, mystérieux, mais à titre personnel, je parle aussi dans Paris, Saint-Pétersbourg, évidemment, de Rasputin, parce que, vous comprenez, Rasputin, je pense qu'on l'a diabolisé, et à tort, parce que, en réalité, Rasputin, il a eu raison sur beaucoup de choses. Tout d'abord, il n'a jamais tué quelqu'un. Au contraire, il a soigné beaucoup de gens. Puis, il faut dire qu'il a eu raison sur les nécessités de certaines réformes en Russie. Il a poussé à la première ligne Premier ministre, qui est Stolypine, qui était après tué. Et finalement, sur le plan diplomatique, il a eu raison aussi parce que il a parlé de la sortie de la Russie de la première guerre et nécessité de faire le compromis. Mais c'est une longue histoire. Cela dit, pour les gens qui veulent parler de ça en profondeur, demain, ils sont encore une fois bienvenus à 66 avenue Théophile Gautier dans le 16e à partir de 15h, la librairie Gautier avec Marie-Thérèse Béjari. On va parler de Paris-Saint-Pétersbourg. C'est un livre qui vient de sortir, qui est dans la liste des best-sellers, un magnifique cadeau de Noël, mais surtout de la fabuleuse histoire de l'icône de Tania Vilmans.
Qu'on en dise quand même quelques mots.
Je voudrais bien, parce
c'est un roman, hein.
Vous savez, je vais vous dire. Enfin, elle n'a pas osé de dire. C'est un des meilleurs spécialistes du monde de l'icône. C'est un livre, comment vous regardez ces icônes, ils sont absolument sublimes. C'est souvent les icônes inédites. Je recommande vraiment à nos auditeurs qui veulent entrer dans ce monde de ressourcer des icônes lavées des fêtes de Noël. C'est exceptionnel. C'est une dame qui a voyagé dans le désert à la recherche de l'icône. Il a connu une belle histoire d'amour, d'ailleurs en Géorgie aussi, à propos de ça. Il raconte Roublev, elle raconte ses couleurs absolument étonnantes. Vous savez, c'est les icônes nous ressourcent, nous autres Russes. Moi, je trouve toujours le grand réconfort dans le nord de la Russie. Il y a les icônes formidables. formidable. Alors, vous comprenez, dans ce, elle évoque, c'est quand même pas si facile que ça, entrer dans ce monde lumineux et mystérieux des icônes. Elle raconte ça à travers son propre expérience, oui. Et c'est un tout petit peu romancé.
C'est un petit peu romancé, c'est ce qui rend la lecture très agréable.
C'est, vous savez, comme je dirige une collection dans le Rocher, c'est le 10e livre, on a reçu Bernard Dobré, il a reçu le prix, il y avait pris Renaudot pour Constantinople aussi. Mais ça, c'est un livre qui m'est cher, parce que je pense que la veille des fêtes, il faut apporter quelque chose de lumineux. Et il a très bien réussi à la fois à illustrer, mais surtout sur le texte. C'est une femme qui a souffert aussi à sa façon. Et la recherche de sa vérité, la spiritualité absolue, il l'a retrouvée dans les icônes. Et c'est pour ça que je recommande beaucoup à nos éditeurs ce livre, La fabuleuse histoire de conte, qui vient de sortir des icônes, qui vient de sortir aux éditions du Rocher. Et on va faire les dédicaces de ce livre demain, c'est-à-dire le 1er décembre à partir de 15h66 avenue Théophile Gautier dans la librairie Gautier.
On peut se demander d'ailleurs, je pense que le livre apporte un début de réponse, si l'icône n'a pas joué un rôle, les icônes n'ont pas joué un rôle immense, très très fort dans l'histoire de la Russie, et notamment dans le redressement de la Russie, parce que c'est clair que les icônes, on parlait de magie tout à l'heure, mais je ne permettrai certainement pas de dire que les icônes sont des objets magiques, mais ce qui est certain, c'est que ce sont des prières en images, ce sont des images priantes qui sont chargées par la prière de ceux qui les peignent.
Absolument, absolument. C'est les Russes qui prient les yeux ouverts en regardant les icônes. Mmh. Ils puisent leur spiritualité dans ces couleurs éclatantes. Et ça, je voudrais vous dire, ça m'est arrivé beaucoup de fois, et je suis profondément persuadé que l'histoire de la Russie qui a tant souffert, le désespoir, et je dirais même le salut de la Russie vient de ces icônes absolument étonnantes. Je parle de Rublev, mais je parle aussi des icônes de Grec, les icônes qui ont publié là-bas du nord de la Russie pour la première fois. Elle publie dans les fabuleuses histoires de l'icône. Alors tout ça, c'est vraiment essentiel, et quand on a tout perdu, il reste cette spiritualité absolue qu'on retrouve dans les icônes.
Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. J'espère que vous reviendrez nous voir. On pourrait faire cette émission justement dont on parlait tout à l'heure sur le rôle de la magie dans l'histoire politique.
Ah ouais, je serais ravi parce que vous savez, j'ai fait une très longue enquête. Alors, sur ça, et ça, j'ai des choses à vous dire.
Donc
sur
on prendra date.
Quand vous voulez, avec la magie et la politique.
Alors, donc nous avons parlé du livre de Vladimir Fedorovski qui s'appelle Paris-Saint-Pétersbourg, une grande histoire d'amour, qui est un livre très 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 passionnant pour un Français, et pas seulement pour un Français, avec aussi de très belles images, vous verrez, notamment une représentation d'un tableau présentant des paysans russes, et qui est superbe. Il y a quelques photos qui sont très étonnantes aussi, Matisse et Lydia par exemple.
Et ça, c'est une photo qu'elle m'a donnée avant de disparaître. Elle-même, elle m'a donnée, et elle ne voulait pas que cette histoire soit connue, parce qu'entre elle et Matisse, mais c'est une photo absolument sublime, aussi la lumière et les mystères.
Alors, c'est paru aux presses de la Renaissance. Il y a l'autre livre dont nous a parlé Vladimir Fedorovski, qui est La fabuleuse histoire de l'icône de Tania Velmans, qui est paru aux éditions du Rocher, qui est aussi un livre passionnant et très très agréable à lire, parce que, comme on l'a dit, c'est une histoire romancée d'une personne qui travaille sur les icônes, qui travaille sur l'histoire de l'icône. C'est très très passionnant. Et puis on a très brièvement évoqué le livre de Louis Béroux, Une dame de l'ombre à la cour de Russie, Anna Viloubova, qui était une dame de compagnie de la tsarine, et qui donne en quelque sorte l'œil des coulisses, l'œil en coulisses autour de la tsarine.
Un livre très très intéressant, et la période est très intéressante, qui mérite qu'on revienne.
Avec un très fort portrait de Rasputin. Voilà, vous avez des messages à faire passer à nos... je signale donc que Vladimir Fedorovski signera son livre à la librairie Gaîtier demain, et samedi à la librairie du Petit Pont.
Toujours à 15h dans les deux cas.
Je vais le rappeler. Bon. J'ai un rectificatif pour tout à l'heure. On nous dit qu'il n'y aura de car qu'à Villepreux-les-Clés, par, on y arrive par le RERC ou par Montparnasse, et à Saint-Nom-la-Bretèche par Saint-Lazare. Voilà. Et puis, j'ai le temps, oui. Samedi 3 décembre, Âmes et Racines, la librairie, 11 Place Saint-Louis à Versailles. Bertrand Levasseur dédicacera ses deux livres à succès, où tous les ingrédients de l'histoire des légendes qui hantent les vieilles pierres et de la passion visionnaire se trouvent associés. Donc, je rappelle, samedi prochain, 3 décembre, Vladimir Fedorovski dédicacera Paris-Saint-Pétersbourg, une grande histoire d'amour, de 15h à 17h, et François-Georges Dreyfus dédicacera une histoire de la Russie, de 15h à 18h, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. La grande vente.
Non, je crois que nous n'avons plus le temps. On prendra deux minutes en début d'émission à Bernard s'il le veut. Merci Vladimir Fedorovski.
Mille merci.
À tout de suite.
Et je souhaite surtout bon fin d'année pour tout le monde.
Merci. Son immense générosité, Bernard Anthony nous concède quelques minutes pour finir les annonces avant d'entreprendre son émission de la réplique, qui est une émission de promotion du dictionnaire de la réplique que je vous conseille d'acheter, de lire et d'utiliser et d'offrir, parce que c'est
cadeau de Noël.
Oui, comme cadeau de Noël, c'est, vous achetez ça. Et puis l'autre truc qui est bien, qu'est-ce que c'est, un bouquin qui vient de sortir?
Eh bien, l'Islam sans complaisance.
Ah non, mais je parlais d'un autre dictionnaire, moi.
Ah, mais il y a celui de Serge de Beketch. Moi, j'allais vous en parler. Le dictionnaire de la colère de Serge de Beketch. Eh ben, c'est un tout petit peu, Serge, ce qu'on disait tout à l'heure avec Vladimir Fedorovski. C'est un peu l'alliance du russe, je ne dirais pas fou, mais extraordinairement quantique que tu es, et puis quand même du méridional un peu rationnel que je suis. Alors les deux dictionnaires sur la même étagère, je te prie de croire, c'est pas mal. C'est un yin et un yang parfaitement harmonisés.
Tu sais que moi, dans ma bibliothèque, je fais très attention quand je range les livres, c'est vrai, hein, je ne fais pas voisiner des livres qui ne peuvent pas s'entendre. Non, mais
mais je te signale que ton dictionnaire de la colère reste tout à fait calme à côté de mon dictionnaire de la réplique.
Alors, ma chère Victoria, quelle annonce avons-nous à faire?
Attendez, je réponds d'abord à un auditeur qui me demande si j'ai vu, si j'ai vu le feu dans une cité du 19e, rue des Chauffourniers. Non, lunettes ou sans lunettes, je ne suis pas tout à fait
dans ce coin-là. Rue des Chauffourniers, le feu?
Dans le groupe Chauffournier,
oh là,
Bolivar.
Ah, mais c'est notre ami Casanova qui a foutu le feu.
Oui, sûrement. Oh, sûrement.
Ouais. Puis alors, je commence l'annonce suivante. Donc, alors, samedi 3 décembre, de 14h à 19h, lundi 5, de 10h à 16h, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, de 10h à 19h, grande vente de Noël au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, entrée libre. Et le Cœur Montjoie-Saint-Denis vous invite à une vente exceptionnelle de 16 heures le samedi 10 décembre de 15h à 19h à son siège social chez Valérie, 21 rue Campagne Première, Paris 1er,
je vais voir personne.
Où il y aura des promotions et des surprises, qu'on se le dise.
Je vais voir personne à la librairie du Petit Pont, à la librairie France Livre le 10, puisqu'ils font leur raout à la même heure chez Valoche.
Oh ben je viendrai.
Je
viendrai, Serge.
C'est gentil. Je viendrai spécialement de Toulouse.
Et oui, puisque je suis le lendemain avec toi, à une autre signature, avec Judith Cabot, avec Jeanne Smith. On sera tous là.
On ne se quitte plus. Le Forum de la France chrétienne reçoit Christine Sourgin, historienne d'art, le vendredi soir 2 décembre, c'est-à-dire après-demain, pour parler des mirages de l'art contemporain, conférence illustrée par des projections. Et Christine Surgin dédicacera son livre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le lieu de cette rencontre, avec Christine Surgin, qui est diplômée de l'école du Louvre, ce qui n'est pas rien, et titulaire d'une maîtrise d'histoire, attachée culturelle, Et après avoir été conférencière au Louvre et dans les musées de la ville de Paris, donc c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle, et qui parle souvent d'ailleurs avec Aude de Kéros sur Radio Courtoisie. Donc si vous voulez rencontrer cette dame, vous téléphonez au 08 75 28 29 15, moyennant quoi, après que vous ayez fait tous les signes de reconnaissance utiles, on vous dira où se passe la réunion. La licorne bleue organise samedi 10 décembre de 15h à 18h encore, je vois absolument que j'ai personne, Philippe Dugue, une signature de Philippe Dugue pour ses deux livres « Qui suis-je » à propos de Robert Brasillach et « Les écrans de la guerre ». Alors, j'ai lu le Brasillach, il est très bon, voilà, il est très bon. C'est une petite pilule de remise en mémoire. Et le vendredi 16 décembre, Les Espérances planétariennes, Hervé Rissen viendra dédicacer Les Espérances planétariennes, aux mêmes heures, je suppose, à la Licorne Bleue, c'est 3 bis rue Jules Vallès. Je signale également la parution tout à fait à propos d'un livre de l'abbé Jean Vignon, d'un album de l'abbé Jean Vignon dessiné par Alain d'Orange, Bienheureux Charles de Foucault. C'est dans cette collection merveilleuse qui s'appelle Chemin de Lumière, qui fait encore de la BD comme on en faisait à la grande époque.
Quoi. Comme les belles histoires, belle vie.
Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est superbe. Et vous avez dans la même collection Benoît, qui n'est pas le 16, Louis, qui est 9, le bienheureux Miguel Pro, Notre-Dame de Fatima, Padre Pio, bien entendu, Saint Padre Pio, Saint Pidis, Saint Dominique Savio et Sainte Thérèse de Lisieux. SOS Tout Petit organise une prière publique le samedi 10 décembre à 14h30. C'est très bien. Enfin, c'est pas loin, hein, c'est devant, sur le parvis de Notre-Dame à Paris, à proximité de la statue de Charlemagne. Prière de réparation et d'intercession pour, en guise de manifestation propitiatoire, mais pas propitiatoire, plutôt, comment pourrait-on dire, de pardon.
Expiatoire,
c'est ça que je voulais dire. Après 30 ans de légalisation de l'avortement. Et puis, un pèlerinage. Ah oui, ça c'est très intéressant. Pèlerinage à l'antique statue de Notre-Dame du Miracle dans l'église Saint-Nicolas du Vieux-Saint-Maur. C'était un pèlerinage royal autrefois. La statue miraculeuse a été préservée à la Révolution. Samedi 10 décembre. Départ de la marche à l'église. Bah, vous saurez quoi faire samedi, hein. Si vous pouvez pas dire que vous n'avez rien à faire. Départ de la marche à l'église Notre-Dame du Rosaire. RER A, le parc Saint-Maur à 14h30, messe de l'Immaculée Conception à l'église Saint-Nicolas, RER à Saint-Maur-Créteil à 16h45. Renseignements auprès des associations familiales catholiques 01 42 83 02 26. Et projection le 5 décembre du film Je vous salue Marie, méditation du rosaire en image sur le grand écran, séance unique à 18h30 au cinéma municipal Le Lido, place Jacques Tati à Saint-Maur. Ça fait pas très sérieux, mais c'est quand ça, c'est 5 décembre 18h30, le Lido, place Jacques Tati à Saint-Maur, projection du film Je vous salue Marie. Voilà.
C'est pas le mauvais film que la griffe avait combattu, je précise tout de suite.
C'est d'ailleurs, je crois que voilà. Le vrai titre, c'est Marie de Nazareth, me semble-t-il.
C'est bien possible, oui, c'est bien possible que ce soit ça. Et je rends à César, ce qui est un moniteur, Minute avait publié dès le mois de février. Dès le 25 février 2004, un article dans lequel il disait « Il faut trouver 2000 milliards d'euros pour rembourser la dette publique ». Donc, ils avaient bien calculé qu'on se préparait à affronter ce tsunami financier. Tiens, je suis content d'avoir pu la placer, celle-là. Vous voulez faire une annonce aussi?
Une toute petite annonce, si vous le permettez. Les petits chanteurs de Saint-Louis, qui sont une chorale d'enfants, de voix d'enfants, donneront un concert de Noël. Mais alors là, le samedi 3 décembre, c'est donc tout bon, à 20h, à l'église Saint-Jean-de-Dieu, dans le 16e arrondissement de Paris, sous la direction d'Ariel Alonso. Il y aura la messe de Gounod, comme disent les petits-enfants. C'est la messe de Gounod, de la musique de Handel. Ça s'annonce très beau. C'est 10 euros, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Église Saint-Jean-de-Dieu, le 3 décembre, à 20h dans le 16e arrondissement de Paris.
Moi j'aime beaucoup les chorales d'enfants dans les églises parce qu'au moins pendant qu'ils chantent dans les églises, ils dessinent pas. Parce que je ne sais pas si vous avez vu cette manie qu'ont les curés depuis quelques décennies de coller sur dans nos admirables églises de la tradition des dessins qui sont ni fait ni à faire par ce que mon ami Planté appelle des nains fous, ce qui est le synonyme d'enfant. Mais c'est insupportable, quoi. Messieurs les curés, soyez gentils, épargnez-nous les dessins d'enfants dans les églises.
Et faites-les santé.
Merci.
Merci Serge.
Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Bonsoir, que Dieu te garde Serge. Merci. Alors, chers amis de Radio Courtoisie, je prends, grâce à Serge de Bekech, le relais pour l'émission de la réplique. Ce soir, nous avons, comme d'ordinaire, Jeanne Smith, Cécile Montmirail, et nous accueillons Judith Cabot, que je vais vous présenter dans un instant. Je prends cependant la relève aussi des annonces pour dire que la grande vente de Noël au Centre Charlier a donc lieu non pas le samedi 10 décembre. Ouf, nous n'y sommes pas. Je serai donc avec Serge de Bekech. Mais le samedi 3 décembre, de 14h à 19h, et ensuite pendant toute la semaine de 10h à 16h. Il y aura là, pour offrir à vos petits, des jouets anciens, des santons, des petits cadeaux, de l'art de la table, des vins et produits du terroir et de grande qualité, d'où nous en sommes occupés, de la décoration, des cartes de Noël, tout un artisanat monastique, des broderies, des livres neufs à prix réduit. On a mis bradé, ça c'est pas gentil, Valérie, non, livre neuf à prix réduit, il ne s'agit pas de braderie, que ce soit des livres religieux sur le scoutisme, et il y aura aussi naturellement de votre serviteur, pardonnez-moi, l'islam sans complaisance que Richard Haddad m'a promis pour après-demain. J'ai été particulièrement attentif tout à l'heure à l'émission que Serge de Bekech a animée avec l'écrivain Fedorovski. Je pense que, chers auditeurs, vous avez été comme moi sous le charme de cette rencontre qu'incarnait Fedorovski de la culture russe et de la culture française, et c'est un inépuisable sujet. Et comment ne pas voir là comme un effet de la providence, puisque ce soir j'invite Judith Cabot. Judith Cabot, je vais vous en dire quelques mots avant qu'elle puisse s'exprimer, répondant aux questions de Cécile Montmirail. Voilà longtemps, trop longtemps, mais elle est toujours très jeune, merveilleusement jeune, que je connais Judith Cabot. Je l'ai connue parce qu'elle a écrit un très beau livre, « Les balcons du ciel », dans lequel elle raconte comment elle, jeune femme juive venue de New York, va épouser la France. Elle va l'épouser doublement, par l'admiration qu'elle va avoir pour notre pays, et qu'elle décrit avec une plume remarquable, par le catholicisme, car Judith est catholique, son fils et un de ses enfants est prêtre, il est curé dans une paroisse de l'Allier. Judith a en effet été accueillie en France par un jeune homme très très brillant, notamment dans l'ordre de la musique, un des grands spécialistes de Wagner. Et Judith est une musicienne. Toute sa famille, ses enfants sont tous des musiciens et au plus haut niveau du conservatoire. Je ne veux pas dire ici les détails de cette magnifique geste musical familial. Judith donc va épouser la tradition française. Pour autant, elle n'oublie pas d'où elle vient, mais l'étonnant, c'est tout à l'heure, je voyais dans ses yeux l'intérêt qu'elle avait pour Vladimir Fedorovski, et j'ai vu combien, après l'émission, leur rencontre allait certainement être suivie, je pense, de beaucoup d'échanges culturels. Je pense que je les réunirai à l'occasion, car elle est d'une lointaine origine russe, et donc Judith Cabot, elle est à la fois un écrivain de l'enracinement. Elle a, comme moi, la plus grande admiration pour celle que Gustave Thibon, notre maître et ami, avait recueilli chez lui, Simone Veil. Il faut toujours préciser, pour ceux qui prendront un cours d'émission et qui n'auront pas de culture, nous ne parlons pas de l'exécrable personnage politique que j'ai toujours combattu, mais de la petite philosophe de l'enracinement. Et au fond, nous en parlons souvent avec Serge de Bekech, une doctrine de droite, n'est-ce pas, Jeanne Smith, qu'est-ce que c'est? C'est une doctrine qui conjugue la notion d'enracinement et la notion d'universel, comme les plus belles plantes. Il n'est pas de fleurs qui ne soit enracinée et qui n'éclose vers le ciel. Alors avant de passer à la réplique, j'aimerais que Judith très rapidement nous dise un peu pour les auditeurs comment elle a tout à l'heure ressenti Vladimir Fedorovski.
Face des questions, je me souviens de mon grand-père qui avait été dans l'armée du Tsar et de son frère qui avait fait la guerre en 1905 contre le Japon. Et j'ai été toujours très impressionnée parce qu'il avait une balafre sous la figure. Et pour moi, la Russie a des origines lointaines, quand même spirituelles aussi. Et je pense que dans ma famille, il y a certainement des origines, je dirais peut-être pas tatars, mais ce sont des Khazars qui étaient convertis au judaïsme au 8e siècle, à l'époque où il y avait un mouvement des Israélites qui faisait du prosélytisme en Russie. Alors, je pense qu'il y a quelque chose dans mon sang qui réagit très, très vivement devant la Russie. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire quelque chose sur la question en ce moment sous forme de roman.
Ah bon, mais voilà une bonne nouvelle.
Voilà.
Judith, nous l'avons invitée ce soir pour réagir, pour répliquer, à un livre qui prend place dans le déferlement actuel d'anticristianisme en général et d'anticatholicisme en particulier. C'est le livre de Michel Onfray, La théologie. Et pourquoi l'avons-nous invité? Parce que dans ce livre-là, Onfray, qui est au fond un spadassin de la philosophie, c'est une petite frappe, on va voir que ça n'est pas une grande intelligence, ça n'est pas un Nietzsche, exprime toute une haine de la religion en général, des monothéismes plus particulièrement, et surtout du catholicisme. En fait, il attaque le judaïsme et l'islam un peu comme des alibis, oui, pour distiller toute sa haine contre le catholicisme.
C'est un prétexte, c'est clair.
Alors, on va y venir, mais notre émission de ce soir a, je crois, une cohérence, parce qu'ensuite, nous donnerons la parole à Jeanne Smith, qui nous parlera notamment de deux choses. La question homosexuelle et prêtrise, dans présent, dans l'excellent quotidien présent, qu'il nous faut toujours lire, même si, comme moi, c'est quelquefois avec 48 heures de retard, parce que ça arrive très tard et que je suis toujours en voyage aussi. Jeanne Smith avait titré « Homosexuelle et prêtrise, la tempête se lève ». Elle l'avait bien vu, et nous allons lui donner la parole tout à l'heure sur cela. Et surtout, dans son excellent, je dirais billet, c'est plus qu'un billet, c'est une demi-page qui s'intitule « Génération des cervelés », elle a traité le 25 novembre dernier d'un document extraordinaire que nous publierons intégralement dans le prochain numéro de Reconquête parce qu'il le mérite, en disant combien elle a eu raison d'attirer notre attention sur le sujet. C'est une lettre que le grand mathématicien Laurent Laforgue adressait au président du Haut Conseil de l'Éducation. Et elle nous en parlera, ce qui lui a valu d'être expulsé de ce conseil. Voilà, tout se tient. Tout se tient parce que, on le verra, avec Onfray, c'est l'attaque contre le surnaturel, mais le surnaturel est enraciné dans le naturel, et avec donc des gens comme ceux qui ont exclu Laforgue du Haut Conseil à l'éducation, il s'agit là de l'attaque contre l'éducation de nos enfants dans l'ordre naturel. Judith, je crois que vous allez maintenant vous exprimer autant que vous le souhaitez sur Michel Onfray, mais pour la bonne compréhension de ce qui est du sujet qui nous amène ce soir, je laisse pour vous interroger le micro à Cécile Montmirail.
Bonsoir à tous, bonsoir Judith.
Bonsoir.
Effectivement, il nous faut maintenant répliquer à ce livre du traité d'athéologie de Michel Onfray. Et vous vous exprimez à plus d'un titre, et également parce que vous êtes l'auteur d'une biographie de Eugenio Zoli, qui était le rabbin de Rome au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, dans le livre de Michel Onfray, l'attaque essentielle est contre l'Église catholique, oui, et plus précisément contre l'Église pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors nous avons relevé un certain nombre de contre-vérités, le livre en est truffé, et vous allez pouvoir répliquer à ces contre-vérités. Première d'entre elles, Michel Onfray dit que le pape n'a pas condamné le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit donc du pape Pie XII. Judith, pouvez-vous répliquer à cette affirmation?
C'est assez facile, parce que je pense que tous les gens sérieux connaissent les discours du pape Pie XII. À Noël 1942, bien entendu, et en juin 43, mais même avant la guerre, à l'époque de Pie XI, il y avait déjà sous Pie XI qui avait écrit l'encyclique Mit Brennen des Orgues, et c'est Pie XII, en fait, qui l'avait rédigé. Donc, c'était déjà une condamnation des persécutions aussi bien nazies que communistes.
Quelle est cette encyclique que vous venez de citer?
Ça, c'est l'encyclique qui a été faite par Pie XI en 1937 et qui condamne vraiment toutes les persécutions contre les gens de toute race, contre le nazisme et contre le communisme, mais surtout contre le nazisme dans ce cas particulier.
Alors il faut dire, si vous permettez, Judith, qu'à quelques jours d'intervalle paraissent deux grandes encycliques, Divini Redentoris, oui, que Jean-Marc Durand a d'ailleurs admirablement commenté. C'est la grande encyclique contre le communisme, et quelques jours après, peut-être 48 heures, c'est l'encyclique contre le nazisme. Mais il faut le dire, Pie XI à cette époque-là est très malade, et on le sait fort bien, l'histoire le sait, le rédacteur des deux encycliques, c'est le cardinal Pacelli, c'est-à-dire le futur Pie XII.
Oui. Ce qui est frappant dans le livre de Michel Onfray, c'est qu'il va aller chercher des choses absolument inexistantes. Par exemple, il va dire à propos du nazisme que l'affaire est entendue. Il ne donne aucune référence historique ou scientifique ou religieuse, et il n'y a aucune note dans le livre. Donc c'est tout tombe absolument dans un torrent de d'âneries. Je peux le dire vraiment. Et parmi ces âneries, il va comparer Hitler à notre évangéliste Saint Jean. Il va dire que Hitler était en fait disciple de Saint Jean, et qu'il ose comparer Mein Kampf avec un évangile de Saint Jean sur les marchands du temple, c'est-à-dire, autrement dit, que Hitler était pour les nazis, pour l'Allemagne, ce qu'a été Jésus pour le temple. Et en fait, il ne voit jamais plus loin que le bout de son nez, si j'ose dire, parce qu'il ne voit pas non plus fustigé, puisqu'il fustigeait les pharisiens, et ce n'était pas du tout des gens religieux, et ce n'était pas du tout les juifs proprement dit, le peuple juif en tant que tel. Alors, il fait constamment des affirmations fausses. Il dit, par exemple, à un certain moment, aucun des quatre évangélistes n'a connu physiquement le Christ. Ça, il faut le faire, parce que n'importe quel enfant de catéchisme a déjà, ou même n'importe quel touriste a déjà vu, par exemple, la scène de Léonard de Vinci avec les apôtres autour de la table, et on a des noms pour les apôtres, on sait qui étaient et qui étaient les évangélistes. Alors, si le Christ n'a pas connu physiquement les personnes avec qui il a dîné, franchement, c'est assez incroyable. Et c'est tout comme ça.
Alors, effectivement, les contre-vérités fusent. Alors, revenons un peu sur cette affaire de la Deuxième Guerre mondiale, puisque à un autre moment du livre, Michel Onfray dit que le pape ne s'est pas attaqué, donc, verbalement au nazisme. Alors il reproche au pape de s'être tué, puis à d'autres évêques également. Donc pouvez-vous, Judith, nous dire si cela est vrai ou faux?
Ce qui est vrai à propos de le Vatican, naturellement, a été obligé de se taire à certains moments. Pie XII a été extrêmement meurtri par les problèmes qui survenaient. Et vous savez que chaque fois que le pape s'exprimait d'une manière ou d'une autre sur le nazisme, il y avait des représailles terribles. Et je pense, par exemple, à ce qui s'est passé en Hollande. En 1942, en mois de juillet, les évêques de Hollande avaient décidé de faire une déclaration retentissante contre le nazisme, parce que le pape avait laissé à la discussion, à l'initiative des évêques européennes de faire ce qu'il fallait. Mais les Hollandais, donc, ces évêques hollandais ont fait cette déclaration. Et le lendemain, il y a eu des représailles terribles, une dizaine de milliers de juifs convertis, c'est-à-dire des juifs qui étaient baptisés, qui étaient dans les couvents, dont Sainte Edith Stein et sa sœur Rosa, étaient déportés à Auschwitz. Alors ça, évidemment, c'était une chose de taille.
Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que non seulement le pape s'est exprimé, qu'il a laissé ou encouragé les évêques de l'Église catholique à s'exprimer, et que ensuite ces propos de protestation des évêques catholiques, notamment en Hollande, ont eu pour conséquence des répressions très graves.
Ah oui, et puis pas seulement en Hollande, par exemple en Pologne. En Pologne, des évêques polonais ont supplié le pape, déjà en mai 1940, Saint-Père, s'il vous plaît, ne dites plus rien, ne protestez pas. Ne protestez pas, car 214 prêtres ont été fusillés ou emmenés en captivité. Et le clergé polonais était extrêmement bouleversé. Et même aussi, en France, il y avait aussi des protestations, des demandes que le Saint-Siège ne s'exprime pas trop sur ces questions-là, parce que les Juifs étaient persécutés d'autant plus que le pape s'exprimait sur cette question.
D'ailleurs, le fait que le Vatican ait pu s'exprimer, si le Vatican s'était exprimé, cela n'aurait rien changé, j'imagine.
Oui,
sur le plan concret des persécutions contre les Juifs, le Vatican n'avait aucun poids.
Non, ça c'est clair. Et le pape Pie XII, en mai 40, il a dit « Je revendique mon droit et ma liberté de parler. Si je me tais, c'est pour éviter le pire. » Alors ça, c'était ramené plusieurs fois. Il a eu des cas de conscience terribles. Pie XII, avec tous les gens qui ont lu un peu les choses sur la question, vraiment savent à quel point le Saint-Père était extrêmement meurtri. Mais il y a autre chose à propos de ce livre qui m'a beaucoup peiné. C'est tellement superficiel comme analyse que finalement ça ne provoque pas une réaction très profonde. Mais il dit dans une rubrique « Hitler aime le Vatican ». Il dit qu'il aime le Vatican pour dire qu'il y a une complicité entre Hitler et le Vatican. En réalité, on sait, d'après différents témoins, que Hitler admirait, certes, l'organisation et la force de l'Église catholique, et qu'il aurait voulu que les nazis puisse avoir une organisation aussi forte que celle de l'Église catholique, mais sans le Christ. Parce que vous comprenez, le Christ était juif. Comme il était juif, il fallait le remplacer par quelqu'un. Et on avait pensé au dieu Baldur, qui était le dieu scandinave, et qui convenait à ce genre de manipulation. Alors, il y a autre chose, c'est que, selon Hitler, les nazis étaient le nouveau peuple élu. Or, comme le peuple juif était toujours, s'était toujours exprimé comme le peuple élu, il y avait un peuple élu de trop. Donc, il fallait éliminer un de ces deux peuples.
Oui, mais on comprend pas très bien, moi je trouve, l'argumentation de Michel Onfray, parce que de dire que l'Église est discréditée parce que Hitler admirait le Vatican.
Oui, certes.
Et alors ?
Non, mais il faut bien dire, je crois que Michel Onfray, là, j'ai son livre, je l'ai feuilleté parce que je crois qu'il n'y a pas de choses à faire. On voit quand on le lit très rapidement, comme je l'ai fait, parce que ça ne mérite pas de choses, c'est un procédé de répétition. Il martèle sans apporter aucune preuve. Il y a un signe d'ailleurs tout à fait remarquable, c'est qu'il n'y a aucune note en bas de page, aucune référence.
Exact.
Voilà un professeur de philosophie qui se permet de faire tout un livre sans aucune référence. Je sais, nous savons ici autour de cette table ce qu'est le travail sérieux. Lorsque, par exemple, dans le livre que j'ai sorti, je parle de celui-là, ça m'est en mémoire, mais on trouvera, je ne sais pas, 300 références. Yes. Je ne dis pas, il y a dans le Coran, sans citer la sourate et le verset. Yes. Je ne dis pas, quand je parle de Lénine, sans citer Lénine. Je ne dis pas, quand je parle de Hitler, sans citer la référence Mein Kampf. Yes. Onfray ne donne aucune référence.
Okay.
Aucune référence procède par affirmation gratuite, par martèlement, affirme aussi des choses qui ne peuvent tromper que le gogo. Par exemple, voilà, il dit ceci: aucun national-socialiste de base, aucun nazi de haut de gamme ou faisant partie de l'état-major du Reich n'a été excommunié. Mais il est évident que c'est pareil pour le maoïsme, c'est pareil pour le communisme. Ni Staline en personne, ni Lénine, ni Mao n'ont été excommuniés. Ils sont en excommunie que les gens qui sont en rupture avec la foi catholique, qui relève donc de la discipline de l'Église. L'inculture de Onfray est telle qu'il ne sait strictement rien des trois religions dont il parle. Il faut dire qu'il ne sait rien du judaïsme, il ne sait rien non plus de l'islam, il faut le dire, il est tout à fait injuste parce que il faut être juste avec l'islam aussi, et il ne sait rien de l'Église catholique.
Oui.
Il procède par affirmation, ce qui fait que, comme le dit, il y a même René Raymond, qui est pourtant, on le sait, un monsieur très, très guimauve, enfin, dit, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas sérieux, et il y a un livre excellent qui est paru, que je tiens à citer, qui est quelqu'un qui, avec lequel je n'aurais peut-être pas un accord sur tout, mais qui est très certainement un grand esprit, c'est Irène Fernandez, qui a répondu « Dieu avec esprit ». Réponse à Michel Onfray.
C'est sûr qu'il lui en manque.
C'est édité chez Philippe Rey, et c'est une femme ancienne élève de l'école de maths supérieure. Elle a été membre du comité de rédaction du dictionnaire critique de théologie aux presses universitaires de France. Et sa réponse « Dieu avec esprit », c'est un titre bien choisi, parce que chez Onfray qui veut annoncer la grande libération, le refus du péché, qui curieusement d'ailleurs considère tout de même qu'il y a un péché, ce sont les religions. Cet Onfray n'a pas le moindre esprit. C'est réellement, il se veut Nietzsche, oh le pauvre. Parce qu'enfin, Nietzsche, c'est décapant. Notre maître Gustave Thibon,
c'est quand même un grand écrivain,
a écrit un livre, Nietzsche ou le déclin de l'esprit, mais c'est un livre aussi d'admiration. Parce que quand on se frotte à Nietzsche, cela nous aide dans notre religion. Tandis que si on ferait, c'est tellement nul, il faut bien le dire, les bras nous en tombent. Par exemple, Onfray ressort la vieille fable de « Les femmes n'ont pas d'âme, ont-elles une âme ?» Vous savez, cette interrogation que Michel Rocard lui-même d'ailleurs avait reprise à son compte, et Dieu sait que l'ignorance de Michel Rocard est grande sur le sujet. C'est une vieille tarte à la crème. Cela remonte au concile de Mâcon, où l'on parlait naturellement de l'homme comme du genre humain. Nous, les hommes, quand on dit homo homini lupus, ça concerne les dames aussi, mesdames. Voilà. Donc, là, un évêque ou un moine avait fait une astuce en disant mais les femmes, quid des femmes. Bon, et cela, ensuite, a été l'objet d'un traitement donc dérisoire, et Onfray reprend cela alors que ce mythe des femmes qui n'ont pas d'âme, alors que l'Église catholique et celle de la Vierge Marie, des grandes femmes docteurs de l'Église, etc., il ose sortir ça. Donc Onfray ne mérite même pas le terme d'escroc intellectuel, tellement c'est nul. Parce que pour être battre un escroc, il faut avoir un peu de vraisemblance. Un escroc n'est pas nul. Lui, c'est la nullité absolue, c'est la rage qui lui fait écrire n'importe quoi. Ouais, pardon, donnez-moi.
Je voulais juste dire que par rapport aux Juifs pendant la guerre, qui ont, d'après lui, que Pie XII était en complicité avec Hitler, et que Hitler aimait Pie XII, et Pie XII aimait Hitler, etc. C'était vraiment le pape d'Hitler. Pourquoi alors les juifs du monde entier sont venus au Vatican à la fin de la guerre pour remercier le Saint-Père, et on a Pie rapide.
Peut-être, Judith, vous pouvez nous donner quelques noms de oui. juifs célèbres qui oui. sont venus au Vatican pour remercier Pie XII.
Alors le premier vraiment très très frappant, c'est Pinchas Lapide, qui a été consul d'Israël à Milan. Il a fait toute une liste du nombre de juifs sauvés, mais il a dit qu'il y avait quelques 800 000 juifs en tout qui pensaient qu'ils étaient sauvés. Et il dit même
sauvés par le pape.
Sauvés par, alors il le dit, les juifs furent sauvés d'une mort certaine par le pape personnellement, le Saint-Siège et toute l'Église catholique. Il ajoute, Pie XII a fait tout ce qu'il pensait qu'il était possible de faire. Et ça c'est cité. Oui, c'est alors, il a dit même qu'en Israël, Israël pouvait planter, vous savez, on plante un arbre pour une personne décédée en Israël, et à la même mois de Pie XII, Pinchas Lapide disait qu'Israël pouvait planter une forêt de 860 000 arbres. C'est quand même très significatif pour les juifs. Il dit aussi que il y avait aussi il y a eu quelque chose de plus alarmant que les silences de Pie XII, ce sont les silences sur Pie XII. C'est toujours le juif qui parle, le consul d'Israël. C'est le silence sur Pie XII. Et aussi, il y a Elio Toaf, qui est le grand rabbin de Rome que Jean-Paul II avait rencontré. Lui aussi, il dit, les juifs se souviendront toujours de ce que l'Église a fait pour eux sur l'ordre du pape. Au moment des persécutions raciales, quand la guerre mondiale faisait rage, Pie XII s'est prononcé souvent pour condamner la fausse idéologie des races. Bon, et ensuite il y a Einstein. Bon, Einstein, que tout le monde connaît. L'Église catholique a été la seule à élever la voix contre l'assaut mené par Hitler contre la liberté. Jusqu'à cette époque, l'Église n'avait jamais retenu mon attention. Mais aujourd'hui, j'exprime ma grande admiration et mon profond attachement envers cette Église qui, seule, a eu le courage de lutter pour les libertés morales et spirituelles. Et ça, c'est Albert Einstein. C'est quand même pas n'importe qui. Il y en a d'autres. Il y a Madame Golda Meir, naturellement, qui a été le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Elle a dit, pendant les 10 années de la terreur nazie, quand notre peuple a souffert un martyr effroyable, la voix du pape s'est élevée pour condamner les bourreaux et pour exprimer sa compassion envers les victimes. Alors ça, ce sont des citations, c'est la réalité. Et juste pour vous montrer à quel point on pourrait dire que Pie XII est un peu un anti-antisémite, si vous voulez. C'est un peu le terme que Nietzsche utilisait, parce qu'on avait accusé Nietzsche d'être antisémite. Il a dit à ses amis, je suis un anti-antisémite. Mais on pourrait presque le qualifier Pie XII de cela, parce que, alors, voilà, il dit, j'ai jugé qu'une protestation de ma part, quand on l'avait accusé pour son silence, j'ai jugé qu'une protestation de ma part, non seulement n'aurait bénéficié à personne, mais aurait provoqué les réactions les plus féroces contre les juifs et multiplié les actes de cruauté, parce que ceux-ci sont sans défense. Et alors, un peu plus loin, il dit, j'aime les Hébreux, c'est justement parmi eux, peuple élu, qu'est venu naître le Rédempteur. Donc, en fait, vraiment, il y a pléthore de citations. On peut trouver dans les archives du Vatican, entre autres, que M. Onfray dit qu'ils ne sont pas à la disposition. Il accuse le Vatican d'occulter les archives, alors que le père Blais, on sait, a écrit un énorme ouvrage.
Peut-être, Judith, c'est important, parce que au-delà des attaques de Michel Onfray, il est vrai que cette idée reçue que Pie XII s'est tu, que l'Église a été complice du génocide perpétré par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale à la vie dure, et vous êtes donc, vous, très 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 bien documenté. Peut-être pourriez-vous donner quelques sources qui pourrait servir à nos auditeurs qui n'auraient pas eu le temps de noter tout ce que vous venez de nous dire, pour qu'ils puissent trouver ces arguments pour défendre l'honneur de l'Église et du pape.
Il y a un très beau livre d'Alexis Curvers, le pape outragé, qui a été publié chez DMM il y a quelques années. Je n'ai pas la date en tête. Il y a un livre de Robert Serrou qui est sur Pie XII, qui est très important et où il y a énormément de références. Il y a les encycliques, naturellement, comme disait Bernard tout à l'heure. Il y a beaucoup de publications, enfin, sur Pie XII.
Oui, mais moi, je crois qu'il y a un livre essentiel qu'il faut connaître, c'est le vôtre, Judith, oui. Parce que votre livre marque cette histoire-là, de par vos origines, mais aussi votre foi catholique admirable, parce que on vous invitera une autre fois, peut-être pour une émission dont je rêve, avec Serge de Bethech, un Serge de Bethech qu'on ne connaît pas. Je lui rends hommage ici, parce qu'il est parti. On ne sait pas généralement la profondeur de réflexion de Serge. On le voit comme un polémiste, quelquefois un imprécateur, un ferrailleur, quelqu'un de très cultivé. Mais on ne sait pas aussi combien il est un homme de mystique et combien il est un homme de réflexion. Et un jour, je voudrais, avec lui, autour de ses micros, parler de christianisme, et vous ne seriez pas de trop dans cet entretien. Mais alors, votre livre est essentiel. Sur le sujet, je dois dire que je le diffuse autant que je le peux, c'est Eugenio Zoli, c'était donc le grand rabbin de Rome qui s'est converti au catholicisme, prophète d'un monde nouveau, et c'est chez François-Xavier de Guibert. L'éditeur est François-Xavier de Guibert. On trouve cela à Duquesne Diffusion, on trouve cela dans toutes les librairies que connaissent les auditeurs de Radio Courtoisie.
Alors, j'ai également eu la chance de lire ce très beau livre, qui est aussi le livre, effectivement, d'un itinéraire spirituel, d'un homme d'une profonde foi, et je vous annonce, chers auditeurs, que Judith Cabot sortira très prochainement, donc je crois au printemps, un deuxième livre sur Eugenio Zoli. Peut-être, Judith, pouvez-vous esquisser ?
Oui, c'est très bien. C'est-à-dire que, voilà, on est un peu à l'affût des écrits de Zoli qui ont été occultés, qui ont été perdus, qui ont été brûlés. On ne sait pas très bien. Mais un jour, un ami américain m'a envoyé des notes de conférence de Zoli, puisqu'il avait passé un été, un mois de juillet, en 1953. Oui, c'est ça. En 1953, donc, il avait passé l'été dans l'Université Notre-Dame de Indiana. Et donc, là-bas, il a donné une série de conférences. Et dans ces conférences, heureusement, enfin, il n'y avait pas d'enregistreur, malheureusement, mais heureusement, il y avait une religieuse qui a pris des notes vraiment très exhaustives. Elle devait vraiment très très bien connaître le shorthand, comme on dit. Et j'ai eu ces notes entre les mains. Et là, j'ai eu l'idée d'écrire quelque chose pour essayer de reconstituer le contexte dans lequel le grand rabbin de Rome avait essayé de faire une sorte de comparaison entre le catholicisme et le judaïsme, non pas une comparaison, disons une sorte de continuation entre les deux par le biais de la liturgie. Et c'était extrêmement beau parce que il va vraiment jusqu'au fond des choses. Le rabbin Zoli, il parle surtout de la Pâque juive, et il montre comment la Pâque juive essentiellement va vers la Pâque chrétienne qui est en fait la Pâque juive actualisée et réalisée par le Christ. Alors donc c'est dans cet ouvrage que j'exprime toute cette démarche, cette continuité.
Vivement le printemps pour pouvoir lire ce livre.
Oui, si vous permettez, nous allons faire un petit break pour traiter quelques questions d'auditeurs. Il nous en arrive beaucoup, auxquels on ne répondra pas, on voudra bien nous excuser parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Je voudrais ajouter que nous avons traité là de l'aspect essentiel du livre de Onfray. On a mis en avant sa mauvaise foi. Il y aurait beaucoup d'autres chapitres. La façon dont il traite les relations de l'Église catholique avec les femmes, où est-il allé pêcher cela? C'est strictement hallucinant. Alors, un auditeur nous dit qu'il n'a qu'un CAPES de philosophie. Ça peut être honorable. On peut être un bon philosophe avec un CAPES. J'ai fait lire son livre à ma fille aînée, qui, elle, est agrégée. Ce n'est pas dans cet ordre-là que nous nous battons. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas appris, même avec un CAPES de philosophie, la moindre déontologie universitaire. Voilà. C'est ce que nous pouvons dire. Là, nous pouvons lui décerner un 4 étoiles nouvelle norme dans l'ordre de la nullité. J'espère que à son livre, il faut le dire, déjà a été magnifiquement répondu. Donc, ce soir, les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent dire à leurs enfants, à leurs neveux qui s'intéresseraient à la philosophie, que oui. Dieu merci, il y a un très vaste choix et qu'il faut aller chercher ailleurs que chez Michel Onfray.
Mais surtout que son livre n'a rien à voir avec la philosophie, parce qu'en fait, il ne propose rien. Il propose des choses négatives et il propose une déchristianisation jusqu'à dans la laïcité, laïque.
On trouve là chez Onfray la répugnance à l'égard de toute morale, donc y compris la morale laïque et républicaine. On imagine ce que serait un monde qui serait dirigé par Michel Onfray. Hélas, je dois dire que nous n'en sommes pas très loin, mais enfin lui, il pousse à bout, en quelque sorte, la dérision et le refus de toute loi. Alors il y a des questions ou des informations. On attire notre attention sur le texte de Pie XII de Noël 42, voilà, qui avait été lu dans les églises. Personne ne doit être persécuté du fait de sa race, voilà. En effet. Voilà. Il est à noter que cette citation a été falsifiée, dit cet excellent auditeur, dans le film Amen de Costa Gavras. En effet, ce film a fait l'objet d'une plainte de la DRIF. Mmh. Je n'ai pas le temps de décrire dans quelles conditions surprenantes s'est déroulé le procès. La DRIF a été déboutée. Cela a tout de même été notre honneur que de batailler sur le sujet avec notre excellent avocat Jacques Trémollet de Villers. Nous avions fait appel, mais nous savons aujourd'hui combien, même en justice, on peut tout dire contre les chrétiens. Je voudrais là préciser que j'ai assisté cet an dernier en tant que président de la DRIF à des procès hallucinants. Nous faisons appel contre le journal Libération, le journal anarcho-capitaliste Libération.
Qui va mal, Dieu merci.
Qui va mal, nous ne lui souhaitons pas un prompt rétablissement. Je préférerais que présent se porte bien mieux et nous ferons tout pour cela, mais dans le dessin ignominieux du Christ affublé, bon, je ne décris pas, d'un préservatif. Alors on nous a dit que la DRIF remettait en cause le droit au blasphème, mais 15 jours après à Strasbourg, je suis allé témoigner pour mes amis conseillers régionaux du Front National, Patrick Bender et Xavier Coderens, qui étaient poursuivis pour entrave qui tout simplement dit ceci: pas de mosquée à Strasbourg, pas de cathédrale à la Mecque, pas de mosquée à Strasbourg, avec un dessin de conque. Et là, alors là, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ils étaient des bouts de feu. On aurait cru que les pauvres musulmans étaient en Alsace, le fait d'un pogrom des chrétiens. Je rêvais. Alors là, on n'a pas le droit, quoi que ce soit. Comment vous avez tout touché à la mosquée? Alors notre avocat va le rendre Saint-Just a excellemment dit, mais enfin je constate donc deux poids, deux mesures. On peut dire les pire chose, c'est le droit au blasphème contre les chrétiens. Et M. Onfray n'est pas un anticonformiste, il est pitoyablement conformiste. M. Onfray, c'est le penseur de Charlie Hebdo, si on veut, quoi. Oui, voilà, ou de fluide glacial. Donc là, il est pitoyablement conformiste. Il y a une veine qui se vend bien, parce que l'anti-christianisme, ça se vend bien. On fait du fric avec ça. Et voilà pourquoi.
David
donc,
Chicotte, c'est le même farine.
Est-ce que Bernard, c'est vraiment une question de gros sous, ou est-ce que c'est pas tout simplement une question de mal?
Oui, il y a le mal, mais le vaudeur et le mal, ça marche bien ensemble. Les gros sous et le mal, ça va bien ensemble. Et donc là, il faut vous voyez par exemple Da Vinci Code, c'est-à-dire comment traiter ce qui n'est ni une œuvre historique, ni alchimique, ni un bon roman, mais enfin c'est une affaire de fric, et le fric on prend au gogo, alors tant pis pour les gogos.
Mais Harry Potter aussi, c'est exactement la même logique.
Voilà, alors voilà pour ce qui est du film Amen de Kostas Gavras. Pourquoi le peuple juif ne décerne-t-il pas à Pie XII, qu'il a largement mérité le beau titre de juste?
Alors, je crois que c'était fait. En tout cas, à l'époque, Madame Golda Meir, elle avait réclamé. Je ne sais pas si on en parle. Peut-être qu'on n'ose plus en parler en Israël. C'est possible. Alors, il y a M. Onfray qui dit que parce que Jean-Paul II a enfin reconnu l'État d'Israël en 1993, que c'était bien tardé. Hein? C'était bien tardif. Alors donc, voilà c'est ce qui reproche sur ce plan-là.
Oui, pardon, je voudrais continuer un peu. Cécile, oui, allez-y, il y a des questions encore.
Oui, il y a des questions.
Non, je voudrais traiter très, très, très rapidement. On me demande d'annoncer, je prends les papiers en vrac. Madame Sabine Dumont-de-Lalande expose ses derniers tableaux animaliers le 25 novembre, du 25 novembre au 15 décembre au centre rue Rieussec à Viroflay. Voilà qui est fait. On nous parle de Staline, mais ce n'est pas le débat de ce soir. On sait ce que j'en pense. Nous avons traité tout à l'heure avec Vladimir Fedorovski. On nous demande, mais ce n'est pas le sujet de notre émission ce soir, nous y reviendrons, sur la dette de la France. À qui la France doit-elle cette somme? Nous y reviendrons. Je réponds tout simplement, c'est aux grandes banques d'affaires, aux grandes banques centrales, et on nous demande d'où vient le fait que soudain la dette, l'annonce de la dette a doublé. C'est que on n'avait pas estimé le coût des retraites des fonctionnaires qu'il faudra bien verser, enfin si tant est qu'on les verse.
Oui, parce que en fait, les retraites des fonctionnaires étaient à la charge des entreprises publiques à laquelle ils appartenaient, et que cette charge est maintenant donnée à l'État contre une soulte qui généralement ne représente pas grand-chose.
Voilà. Alors ça sera d'autres débats. Je suis persuadé qu'on y reviendra. Dans une prochaine émission, un auditeur excellemment informé nous donne aussi un certain nombre que je vais transmettre à Judith, de références de juifs qui ont défendu avec beaucoup d'honnêteté, ça n'a pas été le cas, des intellectuels juifs de gauche révolutionnaires marxistes dont nous savons ici ce qu'il faut en penser, mais c'est une très longue liste, et je la donne à Judith. Je pense que nous ne lui apprenons rien, mais enfin on ne sait jamais, elle pourrait compléter éventuellement. Y a-t-il un livre parlant de ces témoignages de juifs envers l'Église catholique? Mais oui, je pense qu'on trouvera déjà beaucoup de références dans le livre de Judith Cabot et dans le livre à sortir.
Oui.
Nous allons passer à l'ordre du jour suivant avec Jeanne Smith. Mais auparavant, la Griffe ce soir a publié un communiqué qui fera transition en quelque sorte à propos d'une information donnée en boucle ce jour par la radio d'État France Info, radio d'État, mais radio de propagande aussi.
Extrêmement efficace.
Extrêmement efficace.
Très répétitive.
Nous, on l'appelle France Intox.
Voilà. qui déclare ceci. Si l'Église catholique refuse d'ordonner des séminaristes homosexuels, l'Église anglicane, elle, vient de promouvoir comme archevêque un noir originaire de l'Ouganda. Enfin, de qui se moque-t-on? comme si dans l'Église catholique, ça ne fait pas depuis des siècles qu'on ordonne des hommes, qu'ils soient noirs, jaunes, blancs, de toutes les races de la terre. Cela est quand même stupéfiant. C'est-à-dire que c'est le procédé qui confirme donc, voyez-vous, les homosexuels seraient en quelque sorte une race, hein, et donc quand on n'élève pas dans l'Église catholique, ça serait du racisme. Oh les grosses ficelles d'une répugnante intox, vous avez raison Cécile. Qu'en dites-vous Jeanne ?
Oui, c'est très frappant. On a même cru au moment du conclave que l'Église catholique pourrait avoir un pape noir. Ça n'aurait choqué bien personne. Ça n'aurait choqué personne. Ce qui choque en fait la fausse moralité des médias et puis des fausses ligues de vertu qui ont pignon sur rue, c'est le fait que l'Église désigne l'homosexualité comme un défaut par rapport à la prêtrise. Comme vous le savez, un document est sorti très récemment. Il a d'abord été fuité dans la presse. Il a été même pré-fuité au mois de septembre. À ce moment-là, en Italie, les quotidiens plutôt de gauche expliquaient que ce document allait marquer vraiment une nouveauté, puisque désormais, les homosexuels qui auraient observé une chasteté complète depuis 3 ans allaient pouvoir être ordonnés. Et on disait, vous voyez, finalement, ce pape Benoît XVI, pas si mal que ça, il est en train de libéraliser la position de l'Église qui est fort claire.
Peut-être, Jeanne, oui, pouvez-vous, juste pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, nous redire ce document émane de qui ?
Alors, ce document émane de la Congrégation pour l'éducation catholique qui a en charge tous les séminaires, toutes les universités, toute la formation catholique des jeunes catholiques, mais donc notamment celle des séminaristes. Ce document, donc, a été pré-fuité et faussement pré-fuité. Et puis, une agence de presse de gauche a crié à l'épuration éthique en rendant public le document. Et alors là, nous avons appris que, tout à fait conformément à ce qui se fait dans l'Église et à ce qui est sa tradition, le jeune homme présentant des tendances homosexuelles, considéré comme quelqu'un qui ne peut pas avoir de relation normale avec les hommes et les femmes, et considéré également comme quelqu'un d'immature émotionnellement, ne pouvait pas être configuré au Christ, donc ne pouvait pas devenir prêtre, ne pouvait pas prendre la place de l'agneau tout pur qui est le Christ et qui est le souverain prêtre, et donc ne peut pas devenir prêtre. Ça n'était pas une nouveauté, mais on attendait beaucoup de ce document. Et lorsqu'il est sorti, il y a eu un tollé qui s'est lancé, notamment en Allemagne, notamment au Portugal, où les Portugais, vous apprécierez le jeu de mots, ont réclamé le droit à l'indifférence et ont dit qu'il fallait absolument saisir l'Union européenne de cette affaire parce que c'était de l'homophobie. Et la France, elle a eu du retard à l'allumage. Et je sais très bien pourquoi, c'est assez drôle. Le document est apparu en italien et très rapidement en anglais, mais pas en français. Donc, aussi bien Libération que Le Monde, que les autres, ont attendu bien sagement que quelqu'un se charge de le traduire. Mais cela dit, Christian Terrasse de Goliath, lui, il a fait quelques efforts. Et bien sûr, il a été parmi les premiers à dénoncer le fait que l'on empêche des personnes ayant des simples tendances homosexuelles qui seraient profondément enracinées. Bien sûr, un adolescent qui aurait eu une incertitude, une chute pendant son adolescence, lui n'est pas concerné s'il surmonte effectivement la tendance. Mais la personne qui réellement souffre de cet état, et le document est très, très respectueux, il dit qu'il ne faut pas discriminer à son égard, il faut respecter la souffrance dont il est certainement victime, mais il ne peut pas devenir prêtre parce qu'il est appelé, en tant que prêtre, il serait appelé à autre chose.
Oui, voilà. Et puis si vous permettez, Jeanne, oui, il y a aussi une autre dimension qu'il faut avoir au moins ici, le courage d'aborder. C'est qu'on a reproché, peut-être à juste titre, à l'Église, pas avec un grand E, aux Églises, d'avoir eu en leur sein des prêtres pédophiles.
Et oui, et le document ne le dit pas clairement, mais ce document évoque les graves dérives qui peuvent venir du fait d'ordonner des hommes homosexuels qui ont une émotivité pas terminée, enfin pas correcte. Et Tony Anatrella, qui a collaboré à ce document, l'a dit de façon extrêmement claire en parlant des risques de passage à l'acte sexuel, notamment vis-à-vis des jeunes gens, des jeunes sortant de l'adolescence, qu'il est absolument imprudent de confier à un prêtre qui peut avoir des problèmes avec sa chasteté, comme n'importe quel prêtre d'ailleurs peut avoir des problèmes. Mais là, ça prend une dimension particulièrement grave.
Jeanne, peut-être pouvez-vous dire à nos auditeurs, rappeler qui est Tony Anatrella.
Alors, c'est un prêtre psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur toutes ces questions de la famille, de la paternité. Lui, il explique très bien qu'un prêtre homosexuel aurait du mal à atteindre la paternité spirituelle qui lui est demandée. Un homosexuel n'est pas fait pour être marié, il n'est pas fait pour être père ou mère, enfin dans le cas de la femme. C'est triste pour eux, c'est une souffrance, mais c'est comme ça. Et lui, il le dit avec beaucoup de courage, et je vous assure que cela va poser des gros problèmes.
Si je comprends bien, dans le raisonnement que vous faites, l'Église n'est pas en train d'attaquer ou d'anathémiser les homosexuels, mais c'est par rapport à la mission qui est celle du prêtre qu'elle dit l'impossibilité pour un homosexuel d'avoir cette vocation-là. Donc il ne s'agit pas, contrairement à ce que semble dire la plupart des journaux qui en profitent pour attaquer une nouvelle fois l'Église, de condamner les homosexuels de leur état, mais de dire qu'elle ne correspond pas à cette vocation, c'est ça ?
C'est exactement ça. Il n'est pas question de condamner pour une tendance contre laquelle on lutte parfois difficilement. C'est véritablement de dire que la prêtrise n'est en aucun cas un droit, c'est un don, et que le prêtre est appelé par l'évêque. Ce n'est pas le jeune homme qui désire devenir prêtre qui décide de cette question-là, c'est l'évêque. Et c'est tout à fait normal, c'est une question d'autorité. Et lorsque le jeune homme homosexuel, va mentir désormais sur ses tendances pour pouvoir accéder à la prêtrise, mais c'est une aberration totale et une incompréhension totale de ce qu'est la prêtrise. Lorsqu'on devient prêtre, ça n'est pas pour accéder à un statut. Et imaginez qu'un prêtre puisse, ou qu'un candidat à la prêtrise puisse consentir à mentir pour pouvoir célébrer le Saint-Sacrifice, mais c'est une aberration de journaleux, pardonnez-moi. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que Le Monde explique que ce texte sur les homosexuels et la prêtrise est le texte le plus important adopté par le Vatican depuis le début du pontificat de Benoît XVI. Il faut quand même être très 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 déconnecté par rapport à la réalité religieuse. Il y a eu une multitude de textes déjà fort beaux de Benoît XVI appelant les jeunes à la sainteté, fixant des points importants sur la morale familiale, sur une quantité de sujets déjà impressionnante. Eh bien, pour Le Monde, il n'y a que ça, il n'y a que ce document-là qui compte, car il va falloir le traiter d'homophobie.
Merci Jeanne. Il y a des questions qui arrivent. Je tiens à en traiter le maximum, encore une fois. Alors, on me demande l'adresse de la Griffe, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, et le numéro de téléphone 01 40 46 96 31. On me demande si nous avons bien porté plainte après les incendies d'église. Oui, je peux vous dire que c'est le cas, notamment à Romans. Avec étonnement, j'ai lu sous la plume ou la bouche, plutôt, on a rapporté ce qu'a dit un magistrat, pour dire qu'il s'agirait de sales gosses. Vous voyez, alors je regarde que d'un côté, on persécute des gens pour un simple tract parfaitement anodin, exprimant tout simplement une liberté d'opinion, celle de l'inquiétude que peut faire naître une mosquée qui peut être d'obédience salafiste, parce que ça se multiplie, et puis de notre côté, la mansuétude extrême, comme le disait Fedorovski tout à l'heure, nous avons eu en France une immigration qui était celle de laveurs de voitures, c'était ces Russes qui venaient chez nous, donc pour sauver de leur peau, les Russes et tant d'autres, Espagnols, Portugais, que sais-je encore, ils étaient des laveurs de voitures, ils n'étaient pas des voleurs de voitures. Alors, une information encore, Alexis Turvers, c'est en effet un très beau livre, Pie XII, le pape outragé, l'auditeur nous dit que ça a été édité chez Robert Laffont. Pouvez-vous préciser de l'éditeur de Michel Onfray? Oui, c'est chez Grasset.
Je m'excuse. Là, le livre d'Alexis Curvers a été édité chez DMM et le livre de Michel, de Robert Seroux est chez Laffont.
Ah, voilà, oui. Une erreur, cher auditeur. Voilà. Alors, chez Laffont.
Oui.
Michel Onfray, c'est chez Grasset. On nous signale que ce soir, sur France 3, il y a une émission de François-Olivier Gisbert. Les religions menacent-elles la République? Croyez-vous que le catholicisme va en sortir grandi? Je suis sceptique, je n'en sais rien. Tant que je n'ai pas vu une émission, je ne peux pas prévoir la façon dont Monsieur Gisbert va la mener. Ce que je sais, c'est que la République, au moins que nous connaissons en France, qui a trop souvent dérivé, la République peut être un système, mais elle est devenue chez nous une idéologie, elle a surtout attaqué une seule religion, le catholicisme. C'est la longue histoire que traite d'ailleurs excellemment notre ami Sevilla, donc cette histoire des expulsions, des confiscations, des persécutions de tous ordres. La République a été, oui, chez nous, trop souvent anti-catholique, et je crains bien que cet anti-catholicisme ne dégouline encore par beaucoup d'institutions de cette République. En revanche, cette République se garde bien de menacer d'autres religions, et par exemple, M. Sarkozy a créé un conseil français du culte musulman, en quelque sorte faisant de l'islam une sorte de religion d'État. Et nous apprenons ce soir encore, il est vrai, qu'on vient de créer un conseil français des communautés noires. Nous rêvons. Là, nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, on aura bientôt, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'amateurs chez eux, un conseil français de représentation des communautés jaunes, et pourquoi pas, ça continuera. Il faudra bien quand même un jour représenter les Français blancs, mais voyez dans quel engrenage on met le droit au doigt. C'est une véritable catastrophe. C'est la parcellisation, la balkanisation, la libanisation. Nous aurons l'occasion de dire combien, d'une certaine manière, malgré qu'il veuille rassurer le bon peuple et le bourgeois, ce gouvernement, et notamment Nicolas Sarkozy, c'est une catastrophe pour l'avenir, parce que je crains que les mesures qu'ils prennent ne soient celles que nos enfants et nos petits-enfants risquent de payer.
Puisque vous abordez cette question, Bernard, je crois que nos auditeurs, peut-être ne le savent pas tous, les Parisiens certainement, que le 11 novembre dernier, vous avez lancé un grand appel à la résistance du pays libre devant l'Assemblée nationale, dans lequel vous avez annoncé la constitution d'un Conseil national de la résistance du pays libre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, notamment oui. pour les Français qui ne sont pas parisiens?
Oui, cela permet de répondre d'ailleurs à un auditeur qui nous demande si notre manifestation pour la démission de Chirac a bien eu lieu. Elle a eu lieu. Elle a eu lieu le 11 novembre. C'était une gageure. C'était un pari. Nous n'avions pas beaucoup de moyens d'information. Eh bien, nous avons gagné notre pari parce que sans les moyens d'un grand parti, nous étions quand même près de 400 et avec, tout le monde l'a noté, une majorité de jeunes gens. Et j'ai lancé à cette occasion un appel à la résistance du pays libre. Déclarant, on fait la guerre à la France, mais la France n'est pas en guerre, elle n'est pas en guerre civile. Car pour qu'il y ait une guerre civile, il faut qu'il y ait deux camps. Il faut qu'il y en ait un qui résiste à l'agression de l'autre. Et j'ai dit la réalité de ces zones de non-droit, que nous avons connu dans d'autres pays. J'ai connu au Liban ce que l'on a appelé les camps palestiniens. Mais avant d'être des camps palestiniens, c'était des quartiers où peu à peu le droit libanais disparaissait et où un autre droit se mettait en place. Alors les hommes politiques nous disent pudiquement, mais il ne faut pas le voir là-dessous, quelques poussées islamistes que ce soit. Oh, je sais très bien qu'un phénomène comme celui-là est toujours complexe. Mais ce que je remarque cependant, c'est que le gouvernement a négocier
la paix avec des organisations islamistes qui se sont efforcées de ramener la paix. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a payé cette paix en quelque sorte. Oh, je fais confiance aux islamistes de l'UOIF ou de la FNMF. La paix, ils savent la ramener. Ils ont des moyens pour cela. Et puis, le processus continuera comme cela. Alors, j'ai dit qu'il fallait que les Français se regroupent. Et pour ce qui est de moi, j'ai invité nos amis à se regrouper face à cette réalité que nous annoncions, que j'annonçais dès 1976. J'avais écrit quelque chose qui s'appelait le génocide français. En 1976, le génocide français, un génocide qui fait que les Français sont de moins en moins chrétiens, qu'ils se sentent de moins en moins français, qu'on les veut de moins en moins nombreux en France. Et en 85, chrétienté, solidarité, placardée sur les murs de Paris, aujourd'hui Beyrouth, demain la France. Nous avons vu une première étape de beyrouthisation, ou plus exactement de libanisation. J'ai donc annoncé avec Pierre Bernard, ancien député maire de Montfermeil, notamment la création de ce Conseil national de la résistance, composé d'individualités, mais composé aussi de responsables de groupes qui voudront travailler ensemble parce que il faut le maximum d'unité. Ça sera un organe d'unité, un organe de résistance, parce que le pays n'est plus libre. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut défendre le pays libre. Pays libre, comme on le fait Radio Courtoisie, la libre radio du pays réel, libre dans notre tête, face à la désinformation, face à la désintoxication. Je me suis référé sans problème au Conseil national de la résistance, où je sais fort bien que le principal organe de résistance en France entre 1939 et 1945, c'était le gouvernement du maréchal Pétain. En tout cas, au moins jusqu'en 1942, le maréchal s'est forcé de tout faire pour sauver les Français, comme le dit excellemment notre ami François-Georges Dreyfus dans son histoire de Vichy. Mais il y avait aussi une résistance militaire. J'ai évoqué Jean Moulin et Georges Bidault. Je n'ignore pas qui était Jean Moulin, un communiste, que j'aurais combattu, et je sais fort bien la perversité des communistes qui ne sont rentrés que très tard dans la résistance. Ils avaient d'abord collaboré. Mais nous ne sommes pas des communistes. L'histoire est l'histoire. Comme le disait Fedorovski, le CNR voulu par De Gaulle, ça a été Jean Moulin et Georges Bidault après. Georges Bidault, lui, je l'ai connu. Je l'ai connu très jeune dans la résistance Algérie-Française. Il dirigeait le Conseil national de la résistance de l'OAS. Cette résistance était légitime. Elle visait à éviter l'égorgement des Français, le massacre, le génocide des Harkis. Et c'est donc, bien entendu, à ce CNR-là que je me réfère aussi, parce que si nous avions pu sauver l'Algérie française, nous n'aurions pas les menaces que fait peser aujourd'hui donc une intrusion étrangère de plus en plus caractérisée. Hein, j'évoquais tout à l'heure cette scène de viol à Toulouse, donc de viol atroce, où donc une jeune femme est violée parce que on lui fait ça parce qu'elle est française, et des choses de ce genre, comme présidente de la DRIF, j'en ai tous les jours. Alors j'appelle à la résistance avec les partis politique, mais j'appelle à la résistance avec les organisations sociales, avec la DRIF, parce que nous sommes les seuls à aller devant les tribunaux aujourd'hui, et nous continuerons à le faire inlassablement. Nous attendons qu'on nous donne des témoignages de tous ces faits qui sont aujourd'hui inacceptables.
Alors, merci Bernard pour cet appel à la résistance qui nous redonne un peu de cœur, parce que c'est vrai que les attaques sont nombreuses, mais il est vrai aussi que quand la menace se fait plus importante, les langues commencent à se délier. Nous avons parlé de Hélène Carrère-Dancausse, de Alain Finkielkraut, et puis nous avons...
Nous en avons parlé, Clarisse, en première partie d'émission. Nous avons parlé d'Hélène Carrère-Dancausse. On a préféré étouffer. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer avec Hélène Carrère-Dancausse? Bon, on l'a traitée de Bérézina, étant donné qu'elle est secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Venant d'elle, c'était assez énorme ce qu'elle a dit, quand on y réfléchit bien. Elle a dit tout ce que l'on dit sur Radio Courtoisie. Mais Finkielkraut, on en a parlé en première partie d'émission, il est vrai. Et donc, Finkielkraut, il s'est vite déballonné. Mais tant pis, c'est pas grave. Des choses qu'on lui reprochera. De toute façon, toujours, il ne s'en tirera plus. Mais vous vouliez en venir.
Oui, un grand mathématicien français, le mathématicien Laforgue, a été démissionné du Haut Conseil de l'Éducation, de l'Enseignement. Je crois, Jeanne Smith, que vous avez traité l'affaire dans Présent du 25 novembre.
Oui,
Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus pour nos auditeurs?
C'est une histoire faramineuse. Laurent Laforgue est un mathématicien extrêmement connu dans le monde où il évolue. Il est médaillé Fields. Ça veut dire que pour les mathématiques, c'est la plus haute distinction que l'on puisse imaginer. Il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, il y a la médaille Fields. Parce que, paraît-il, Nobel était en délicatesse avec celui qui aurait pu gagner. Enfin bref, ça c'est de l'histoire ancienne. Mais Laurent Laforgue est mathématicien, et en vrai mathématicien, c'est un homme extrêmement cultivé, savant, un amoureux des lettres. Et depuis un an et demi, il s'intéresse d'extrêmement près au désastre des écoles françaises, tant par les méthodes que par les programmes. Et vraiment, je crois que c'est un homme qui s'est lancé là-dedans, dans cette étude, avec un esprit tout à fait systématique, et il a des convictions. Et par miracle, Jacques Chirac l'a nommé. Jacques Chirac avait trois hommes au Conseil de l'Éducation qui est chargé de faire les nouveaux programmes pour l'école primaire. Et Jacques Chirac a nommé ce Laurent Laforgue. Je ne sais pas s'il savait ce qu'il faisait. Ce Haut Conseil a été ouvert solennellement le 8 novembre, et puis son président Bruno Racine, qui par ailleurs est directeur du Centre Beaubourg, a fait une petite note disant aux uns et aux autres, à ses 8 conseillers, eh bien, pour la première séance, nous allons choisir des experts, et nous choisirons bien sûr des experts à l'Éducation nationale, et puis nous auditionnerons les syndicats. Laurent Laforgue est un homme fougueux, manifestement. Il a une tournure de plume extraordinaire. Il a envoyé un long courriel, non seulement à Bruno Racine, mais à ses 7 autres conseillers, pour dire que cela était totalement inacceptable. Et il n'a pas hésité à dire, si vous faites appel aux experts de l'Éducation nationale, aux inspections générales et directions de l'administration centrale, etc., pour moi, dit Laurent Laforgue, c'est exactement comme si nous étions un haut conseil des droits de l'homme et si nous envisagions de faire appel au Khmer Rouge pour constituer un groupe d'experts pour la promotion des droits humains. Eh bien, on n'est pas plus délicat. En tout cas, Bruno Racine a déclaré qu'il n'appréciait pas le ton. Je vous invite à découvrir l'intégralité de ce courriel, soit sur Internet, soit si vous n'avez pas Internet, dans Reconquête. Vous verrez que Laurent Laforgue apporte énormément d'arguments à ce qu'il dit. Bruno Racine, son président, n'en a retenu que le ton violent, et Laurent Laforgue n'a même pas pu siéger une seule fois à ce Haut Conseil de l'Éducation. Il proposait la nomination de vrais experts, c'est-à-dire des gens qui ont réellement pensé à la question, Marc Le Pris, Liliane Lursa. Il cite des hommes et des femmes de droite et de gauche, les pestiférés, mais aussi les extrêmes gauches du genre Jean-Paul Brighelli. Vous avez tout l'éventail de ces professeurs honnêtes et de ces penseurs consciencieux qui voient le désastre du décervelage des jeunes aujourd'hui en France. Laurent Laforgue a eu le courage de le dire, et bien il a été débarqué. Et je crois qu'il y a une deuxième raison pour laquelle il a été débarqué, et que d'ailleurs la presse n'en parle pas. Je crois qu'à présent, il y a juste Valeurs Actuelles qui en a parlé.
C'est assez étonnant, parce qu'il s'agit quand même d'une sommité chez le professeur français.
C'est inexplicable.
Il est viré comme un malpropre de ce Haut Conseil, et personne n'en parle. Personne, bien sûr, sauf Présent, donc vous.
Et Radio Courtoisie en a parlé, je crois, lundi soir, ce qui est très bien. Et puis vous avez toutes les associations du genre Lire Écrire, que je vous conseille, elle est très bien, lireécrire.org, et aussi Reconstruire l'école, qui est cataloguée à gauche, Sauver les lettres, toutes ces associations lancent une pétition pour que Laurent Laforgue soit réintégré. Vous la trouverez sur Internet. Mais ce qui est très frappant chez lui, c'est qu'il a une pensée extrêmement construite. C'est un catholique convaincu et affiché,
voilà,
et affirmé.
C'est
peut-être ne s'en était-on pas aperçu, mais je vous invite à aller voir le site personnel de Laurent Laforgue, sur le site de l'Institut des Hautes Études Scientifiques, IHES, sur Internet. Alors là, vous avez des textes de toute beauté sur l'éducation. Vraiment, je vous le dis avec le cœur, parce que c'est magnifique ce qu'il écrit sur la culture, sur la langue française, sur la civilisation française et chrétienne. C'est vraiment magnifique. scientifique, même si lui se dit plutôt fasciné par la Révolution. Mais ce qu'il reproche à la Révolution française, c'est d'avoir évacué Dieu. Et il le dit avec beaucoup, beaucoup de conviction. Eh bien, cette tribune libre qui est publiée sur Internet, je ne pense pas que nous allons avoir le temps de l'évoquer ce soir. Il faut la lire absolument. Vous comprendrez beaucoup, beaucoup de choses. Et vous verrez que ce Laurent Lafaure qui pense que beaucoup est perdu dans l'école laïque aujourd'hui. Cette école laïque qui savait transmettre Peggy, qui savait transmettre Bossuet, qui faisait beaucoup de mal, mais qui faisait aussi un apprentissage de la liberté par la formation des intelligences. Il pense que cette école est probablement fichue. Il pense que l'Église, avec son enseignement sous contrat, a également beaucoup, beaucoup fait perdre, d'ailleurs elle-même, dit-il, ne sait pas plus transmettre sa culture, ni même son catéchisme. Eh bien, il fait la promotion très net et très clair pour les écoles hors contrat, en disant qu'il faut faire quelque chose maintenant. C'est passionnant, ce texte. Je vous invite à le découvrir.
Merci, Jeanne. Mais moi, je me permets de dire que avec Radio Courtoisie, l'instrument quotidien de la résistance, c'est évidemment le journal présent que vous dirigez. Un simple mot, j'ai encore beaucoup de choses à dire, de quelques réponses sur la situation de présent aujourd'hui, Jeanne.
Eh bien, un peu moins mauvaise qu'en début d'année. Nous allons probablement boucler l'année sans perte, ce qui était pour nous primordial. Nous avons des abonnements qui montent tout doucement, mais qui montent depuis, je dirais, 5-6 mois. Nous souhaitons absolument rester sur cette courbe ascendante et je crois que nous avons beaucoup, beaucoup de choses à dire et à les dire ensemble avec tous ces mouvements de ce que vous avez appelé la résistance nationale.
Oui, alors, une question encore, mais il en arrive d'autres. Je suis navré de ne pas pouvoir répondre à tout. Très rapidement, est-ce qu'on connaît dans l'histoire de l'Église un homosexuel qui a été déclaré saint? Je ne peux pas facilement répondre à cette question, mais tout de même, oui, je crois pouvoir dire ceci, c'est que il y a des gens héroïques qui résistent à leurs pulsions, ils ont un petit problème chromosomique, et le fait d'avoir des pulsions homosexuelles n'empêche pas une foi chrétienne très très vive. Là, c'est tout à fait autre chose.
Et heureusement d'ailleurs,
l'Église condamne le péché, ou bien condamne les déviations, mais elle ne condamne pas le pécheur, et puis il y a aussi donc des choses qui rendent héroïques. Il peut y avoir des saints, justement, par cette homosexualité transformée. Je peux dire que j'ai connu, moi, au moins deux hommes dont je savais très bien le drame qui était celui de leur vie. Je peux dire qu'ils ont tout à fait remarquablement transformé cela.
Bernard, notre émission va bientôt toucher à sa fin et je voudrais quand même que vous nous disiez un mot du livre qui va sortir et que vous venez d'écrire.
Voilà, alors il s'agit de l'Islam sans complaisance aux éditions Godefroy de Bouillon, édité par notre ami Richard Haddad. J'ai voulu essayer de faire un livre qui serve à l'honnête homme de la résistance nationale, qui puisse permettre le débat avec les musulmans, ce que j'accepte pour moi. Dans ce livre-là, j'attaque l'islam, qui est une idéologie. Je n'attaque pas les musulmans. Mon rêve, c'est de les convertir. Et puis, comment ne pas penser au Bachelier Boualem, que j'ai tant aimé? Comment ne pas penser à ces musulmans de l'armée française et d'autres encore que je fréquente? Mais j'ai voulu dire pourquoi j'attaquais l'islam. J'ai voulu le faire de manière rationnelle. Mon livre se situe entre les petites plaquettes qu'il y a, qui sont souvent excellentes, et les gros livres des scientifiques. Avec ce que je propose, j'espère, en tout cas Yves Daoudal a trouvé que c'était du bon travail, sans son avis, je n'aurais pas voulu publier ce livre-là, Haddad aussi, Valran Saint-Just aussi. Bon, j'ai voulu proposer un travail avec cela. On saura qui était Mahomet, ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans les hadiths, c'est beaucoup moins connu, ce qu'est la Sunna. On saura l'histoire, les grandes étapes de l'histoire de l'islam, les grandes constantes de l'islam, la charia, l'umma, on pourra se débrouiller. C'est un livre dont j'espère qu'il se lira facilement. Je le signerai en tout cas dès mercredi après-midi au Centre Charlier, parce que Gérard Marin m'invite mercredi à midi pour parler de ce livre-là. Je le signerai le 11 à la signature de Renaissance catholique. J'espère ainsi apporter donc un autre son de cloche que celui de ce que Jean-Pierre Perroncet-Ludo appelle les lèches-babouches.
Bon, eh bien, je crois que notre émission arrive à sa fin. Merci Bernard, merci Judith, merci Jeanne, et donc à dans un mois.
Merci toutes les trois, et merci à Serge de Bekech. de nous accueillir si gentiment comme d'habitude.